moins réussi. Pensez du côté électrique, le ZDX chez Acura, personne n'en veut. Même le CR-V, c'est un véhicule qui est fiable, mais qui est plate comme la pluie d'automne à conduire. Je peux pas dire que la compagnie s'est attachée de mauvaise façon à certains développements. Ils ont développé des bons véhicules, puis il y en a d'autres qui sont laissés pour compte. On parle encore du Honda Ridgeline qui est toujours en vente. Est-ce que quelqu'un vous parle du Honda Ridgeline?
Non, personne.
Voilà. Mais alors, pourtant, c'est pas un mauvais véhicule, mais on l'a négligé tout simplement.
Mais l'Acura ZDX, le problème, c'est qu'il est assez laid pour faire des remèdes, là.
Oui. Mais tu sais, des chars électriques, là, je veux dire, si on faisait un palmarès des charlettes, il y en a pas mal.
Ah non, t'as raison. T'as raison.
Et, mais le ZDX, je suis obligé de vous rappeler. Je suis obligé de vous rappeler, malheureusement, que dans ma vie, j'ai conduit et aimé une Pontiac Aztec.
Oui.
T'es un peu mal placé pour parler de
charlette. Mais l'Aztec, c'est comme l'élément. Tellement laid qu'il en est beau.
C'est ça.
C'est ça. Ben, c'est ce que je me dis tous les matins quand je me regarde. Mais...
Hey, question particulière. Je la trouve particulière, en tout cas. Jeep Wrangler, je regarde pour un modèle en 2019 et 2023 avec un moteur 2 litres. Est-ce que c'est un bon véhicule pas trop gourmand en essence?
Ah ben non. Je veux dire, c'est clair que c'est gourmand en essence. C'est un véhicule qui est lourd, puis c'est un véhicule qui a l'aérodynamisme d'une boîte en carton, là, on le sait. C'est sûr que ça, c'est un véhicule qui est lourd, qui va être gourmand, qui va boire beaucoup. Mais c'est un véhicule tellement le fun. Tu sais, on n'achète pas un Wrangler. Moi, je vous dirais qu'un Wrangler, c'est le genre de véhicule qu'on n'achète pas comme on achète un véhicule ordinaire. Il faut s'attendre à certains compromis, point de vue confort, point de vue consommation, on le sait, mais ça vient tellement avec la personnalité que c'est ça qu'on choisit d'avoir.
Donc,
quand je vous parlais d'émotion tantôt, ça, c'est le plus bel exemple.
Oui. Oh, oui, t'as raison. Puis la même chose pour les golfers. Je parlais de ça avec mon vendeur chez Vaux. Même chose pour les golfers. Au prix que c'est, ce char-là, c'est pour les passionnés.
Je veux oui. Puis. C'est le cas des Honda Civic de ses pairs, c'est le cas des Corolla GR, c'est le cas du Wrangler, c'est le cas du Ford Bronco aussi, qui est un véhicule qui a de la gueule, qui a du style, qui est vraiment beau, puis qui, encore une fois, bon, fiabilité un peu douteuse, puis consommation vraiment pas douteuse, elle, par exemple. Mais, tu sais, on aime ça ou on n'aime pas ça. Si on aime ça, on est prêt à faire le compromis qui va avec. Moi, pour un Wrangler, je ferai le compromis.
Marc, fais-moi un top 3 des meilleurs VUS hybrides non branchables. Rapport qualité-prix. Et là, je veux pas ni de Lexus, ni de BMW.
OK, mais là, on veut-tu des voitures de luxe ou on veut des voitures mainstream?
Parce que
les hybrides non branchables, dans les bons hybrides non branchables, il y a du côté des Coréens de bons choix. Ça dépend, encore une fois, du format que vous voulez. Si vous voulez un compact, c'est une chose. On va aller vers le Hyundai Tucson Kia Sportage, qui sont à peu près le même véhicule. Si vous voulez quelque chose de plus gros, de plus massif, toujours du côté des Coréens, il y a le Hyundai Santa Fe. Le nouveau Toyota RAV4 qui va arriver en version hybride bientôt, qui est super intéressant de ce point de vue-là. Donc ça fait aussi partie des branchables, des non-branchables. Chez Volvo, on a fait des modèles non-branchables. Alors, tu sais, ça prendrait peut-être un peu plus de détails. Voulez-vous quelque chose de compact ou de plus gros? Voulez-vous quelque chose de luxe ou de mainstream? Un des très bons que moi j'aimais beaucoup, c'est le Mazda CX-50 hybride. Malheureusement, tarif aidant, on ne l'importe plus des États-Unis. Fait qu'il n'y en a plus, malheureusement, sur le marché pour le moment. Mais c'était un des excellents véhicules dans ce cadre-là.
Salut Marc, j'ai un Trailblazer 2022 full équipe. J'aime le véhicule, j'aime la conduite, j'aime les équipements, mais ça reste que je me suis trompé quand même parce que je le trouve trop petit, entre autres pour des bagages. As-tu une suggestion d'un Trailblazer plus gros?
Ben en fait, ce ne sera pas un Trailblazer, vous allez aller directement vers le Blazer.
Okay.
Qui est en fait l'équivalent du véhicule, mais en version plus grosse. Évidemment, c'est pas la même motorisation. Ça va être plus gros, plus puissant, un peu plus gourmand. Le Trailblazer, il faut le rappeler, là, c'est un compact limite sous-compact avec un moteur 3 cylindres, 1.2 ou 1.3 litres. Donc, c'est des petits véhicules. C'est clairement pas fait pour transporter des choses. Vous allez donc devoir aller à la limite l'Equinox, mais moi, l'Equinox, je le trouve encore trop petit. Donc, j'irai vers le Blazer lui-même, qui est le grand papa de toute cette série-là. Là.
Oui. Salut Marc, un Tiguan hybride, ça existe-tu?
Non, pas que je sache. Puis on a fait un nouveau moteur cette année là, pour le nouveau Tiguan, qui est définitivement mieux, plus économique sans être hybride, mais il ne fera pas 5 litres au 100, là, c'est certain.
Chevrolet Trax, ou dernière question, ou Nissan Kicks 2026, quel choisis?
Hey, ça, c'est pile ou face. Hein? C'est deux de mes véhicules que j'ai aimé le mieux. Ah oui, dans cette catégorie-là. Ouais, puis même l'année passée, le Trax, je l'avais mis dans mon top 3 des meilleurs véhicules de l'année.
Ça, c'est des petits VUS, là.
C'est des petits VUS, mais je trouve qu'avec le Nissan Kicks et le Chevrolet Trax, ils ont fait un excellent travail. Bon, évidemment, vous avez le même moteur là-dedans qu'on vient de parler du Trailblazer, là, du côté du Trax, un petit moteur 3 cylindres, 1,2 litres. Même chose du côté du Kicks, c'est aussi un petit moteur. Écoutez, moi, je vous dirais, allez les essayer. Ce sont des véhicules qui sont un peu différents dans leur façon d'être. Moi, je préfère le Kicks parce que j'aime mieux le style, j'aime mieux le look. J'aime le fait qu'il est aussi disponible avec le rouage intégral. Mais c'est vraiment aller l'essayer. C'est vraiment pile ou face dans ce cas-là.
Hey Marc, je te remercie infiniment de t'être rendu disponible en ce 30 décembre. Je vais te souhaiter une bonne et heureuse 2026. Puis on se reparle en janvier.
Avec plaisir. Écoutez, bonne et heureuse à tout le monde aussi. Puis écoutez, si vous avez encore des questions, hein, Marc Bouchard ou Gotchard Podcast sur Facebook, posez-les. Ça me fera plaisir d'y répondre.
Le soir du 31, Marc fait juste ça, répondre à vos questions.
Et voilà. C'est tout.
Non, mais en fait, vous riez, mais le 25 au matin, c'est ce que je faisais, par exemple.
Ah! Okay. Là, on connaît un vrai. Salut, Marc.
Salut, bye-bye.
Bye-bye. Bon réveillon du jour de l'an. Bon réveillon du jour de l'an à tout le monde. Portez-vous bien. Amusez-vous bien. Soyez festifs. J'allais dire, et pas trop. De quoi je me mêle? Défoncez-vous à gueule si vous avez le goût de le faire.
Ben surtout toi. Bonnes vacances, Dan.
C'est vrai. Merci de me faire passer. Je tombe un peu en vacances. Je serai de retour le 12 janvier. Par contre, lundi.
Lundi prochain, moi pis Dom, on est là.
Vous serez là toutes les deux, sans faute. Et puis, c'est Max Lacasse, d'ailleurs, qui sera avec vous. Donc, profitez-en en masse. C'est des reprises aujourd'hui jusqu'à l'arrivée de Nick Cloutier qui sera là avec Mel et Louis à partir de 15h. Puis nous autres, on se laisse en souhaitant bonne année. Amusez-vous bien. Puis on se dit surtout, bonne et heureuse 2026. On revient le 5 janvier.
Voyager un brin du côté de Saint-Quentin. Dites bonjour à mes parents qui habitent le 5e rang. Pas les manquer, prenez le chemin pas pavé. Près de la maison, vous verrez, y a une croix qu'on a plantée. En vous voyant arriver, mon haut drap sont habillés. Il dira, mais entrez donc, passez donc dans le salon. Les planchers sont frais cirés, on ose à peine marcher. Un bouquet de fleurs des champs embaume l'appartement. Que c'est charmant chez nos parents, ce que ça sent bon.
Morey, live.
Réécoute les meilleurs moments.
RadioX.com.
L'application RadioX.
Radio X.
Morey Live, présenté par Multiconfort FP. En janvier, épargnez 15% sur l'installation de votre nouvelle thermopompe et obtenez 6 mois sans paiement ni intérêt sur certains produits. Multiconfort FP à Québec et Victoriaville.
Ouellet, en direct,
avec JC et Patricia, lundi au vendredi, midi.
Radio X.
Ouellet en direct, présenté par l'entrepôt de la Renault.
Chez nous, vous allez en avoir plus pour votre argent. Si vous ne me croyez pas, ben passez nous voir au 9030 John Simon, sortie Chauveau sur Henri IV. L'entrepôt de la Renault.
Solde d'après Noël, matelas Dauphin. Tous les matelas Dauphin sont réduits de 50 % pour 6 jours seulement. Du 26 au 31 décembre, tous les matelas et sommiers fabriqués par Matelas Dauphin sont offerts à 50 % de rabais dans tous les matelas Dauphin.
Capsule
Radio X.
Tu cherches un voyage de chasse ou de pêche? Ne manque pas le plus grand rassemblement de pourvoirie dans l'Est du Québec. Conférenciers et boutiques sur place du 15 au 18 janvier au Centre des congrès de Lévis. Pourvoirie.net, c'est là que ça se passe. Faites plaisir aux petits et aux grands. Rajoutez des pizzas Ludo à votre buffet des fêtes et sauvez beaucoup d'argent. Deux pizzas ne poussent pour 12 $ chez les marchands participants. Faites vos provisions. Aliments Ludo, décongeler, cuire, servir. Attention, l'hiver peut vous surprendre. Gardez vos distances. Mais si, malgré tout, la route vous surprend, accrochage ou collision, rassurez-vous, il y a Car Expert HM Lévis. Assistance accident 24 heures. Car Expert HM Lévis, avoisinant l'autoroute 20, sortie Lévis-Centreville. Le Monster Spectacular est de retour au Centre Vidéotron de Québec le samedi 30 mai. Le spectacle familial par excellence mettant en vedette Monster Truck Freestyle Motocross BMX et bien plus. Billets en vente sur Ticketmaster.ca.
C'est pas un problème, l'argent. Là.
Pierre Couture.
Ça roule.
Suivez les chroniques de Pierre Couture.
Ça roule.
À Radio X.
Radio X.
La chronique de Pierre Couture, présentée par Céramique L'Entrepôt. Pour vos rénos des fêtes, offrez-vous un plancher neuf, magnifique et à prix tout petit. Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre Bertrand.
Chez Sport Expert et Atmosphère, magasinez les soldes d'après Noël. Jusqu'au 6 janvier, obtenez jusqu'à 50% de rabais sur une vaste sélection d'articles pour toute la famille. Détails en magasin. Sport Expert d'ici.
Hey, salut! C'est encore moi, ton sommeil. Bon, là, c'est le temps des fêtes. L'équipe festive de Dormez-vous m'a demandé de vous rappeler que c'est aussi le temps de dormir. Hein? Oui, il y a des portions de dinde à digérer, il y a des pyjamas drôles à essayer, il y a des siestes à faire dans la pile de manteaux sur le lit. Le cadeau à donner, c'est moi, le sommeil. Attends de me voir emballé. Hein?
Et vous aussi serez emballé, car le solde des fêtes se prolonge. Vous pouvez encore profiter de 25% de rabais sur presque tout. En ce moment, seulement chez Dormez-vous. Les conditions s'appliquent.
Radio X recrute pour sa force de vente locale. T'es un développeur dans l'âme, un vrai fonceur. Que tu sois junior, intermédiaire ou même senior, on veut te rencontrer. Viens évoluer dans un milieu ultra stimulant pour la station toujours numéro un dans la grande région de Québec. Peu importe ton secteur d'emploi actuel, assurance, automobile, meubles, services, on veut te rencontrer. Fais-nous parvenir ton CV à cv@commercialradiox.com. cv@commercialradiox.com.
Bloopers.
Bloopers. Bloopers.
Bloopers.
Yo! Moi, là, je donne un show.
C'est ça que je fais, c'ti.
Même si ce que je dis, c'est de la merde, je donne un show. Ben là, si tu veux que je leur prenne au complet, dis-moi, les calés.
Yeah! 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 Oh! 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 Oh!
Je t'ai soufflé, c'ti.
Venez essayer et voir le nouveau Taos.
Ben là, je vais recommencer. J'ai hésité, esti. Puis là, j'étais dans ma tête. J'ai perdu dans mon cerveau. Tabarnak comme un épais. Puis là, j'ai dit... Ouais. Chantier à Québec et Lévis. Équipe jeune et dynamique. Info à... Info à thiboelectrique.ca. Ben, t'as-tu trouvé ça bon? François, passe une excellente journée. Remplis ton cœur de joie, de bonheur et d'allégresse. Et fais de ta vie une... Une vie de déesse, tiens.
Bloopers.
Bloopers. Bloopers.
Bloopers.
Radio X.
Choix.
Choix.
98.
98.
1.
La fameuse. L'original.
Choix.
Choix.
Radio X. À Québec.
Québec.
C'est Radio X.
Choix. Radio X.
Faites-vous.
Faites-vous.
Votre propre opinion.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Voilà. Hey, notre invité, il est là.
Yes.
Patrick Mathieu du Hackfest, comment allez-vous?
Oui, ça va bien, merci, vous autres.
Oui, ça va bien. Patrick, peux-tu nous parler un peu du Hackfest? Ça s'en vient en fin de semaine, au cours des prochains jours. Et y a-tu des gros noms qui ont été confirmés? Est-ce que les gens du ministère de la cybersécurité et du numérique seront présents?
Ben oui, toujours, en fait. Depuis 3 ans, en fait, on a 2 événements. Fait que jeudi, c'est Polar. C'est un événement pour les gestionnaires en cybersécurité ou en TI. Ben, ça se passe au Capitole. C'est sold out, je crois, où il reste 1 ou 2 billets. Ça, c'est une journée avec un cocktail, un dîner, 3 services et tout. On a des conférenciers un peu partout sur la planète, là. Et locaux, en fait, c'est des gestionnaires de sécurité de grandes entreprises qui viennent dire leurs problèmes, comment gérer l'AI. On a des startups qui viennent expliquer comment faire de la sécurité dans petites entreprises, l'éducation, plein de choses comme ça. Puis c'est le mot d'ouverture par le ministre Bélanger là, du MCN. Puis au Access, qui est jeudi soir, vendredi, samedi.
Ouais.
Ça, il y a des billets en masse, je n'y arrive pas. On a le NCN qui vient de donner, c'est le sous-ministre adjoint, si je me trompe pas de titre, qui vient donner une présentation là sur les avancées de qu'est-ce que le NCN a fait vendredi après-midi.
Est-ce que tu... Vas-y, je voulais te poser une question sur le ministère de la cybersécurité. On les sent plus actifs, hein? Je sais pas, là, depuis avec le scandale Saclic, ils demandent, eux, au gouvernement d'avoir plus de pouvoir, avec raison, j'imagine?
Bien, c'est avec raison, puis en fait, c'est le problème qu'Éric Kerr est autres là, du ministère a eu dans les dernières années. Ils n'ont pas le pouvoir de forcer les autres ministères et organismes de faire quelque chose. Ils peuvent juste les conseiller.
Ouais.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des erreurs avec cette clique et autres, mais ils ne pouvaient pas prendre le projet en charge et leur dire « Vous arrêtez ça ». Ils n'ont pas le pouvoir, tout simplement. Mais là, ça devient un enjeu autant au niveau de sécurité et autres, parce que s'ils font juste conseiller, il y a plein de ministères qui ils tirent sur leur couverte dans le sens que ils veulent pas suivre les conseils parce qu'ils vont avoir l'air d'avoir mal fait leur job. Et c'est plate, là, mais la majorité du temps, c'est ça. C'est du monde qui veulent garder leur job. Fait qu'ils font pas les bonnes choses, la bonne manière, etc. Je veux dire, ça clique, c'est de A à Z, mais ça, c'est un exemple parmi des centaines d'autres au gouvernement, là. Fait que oui, il faut du pouvoir de plus, autant pour la sécurité de nos données que des projets qui dérapent tout croche, là. Ouais.
Est-ce que le ministère de la cybersécurité du numérique devrait avoir... il réclame plus de pouvoir, mais d'avoir droit de vie ou de mort. Pourrait dire, vous arrêtez complètement, là. Si on avait fait ça avec sa clique, et là, on comprenait qu'avec sa clique, tu avais un Carl Malenfant qui lui poussait pour son réseau, sa gang, son expertise à l'interne. C'est une société d'État dans l'État, hein, la SAC. Donc, on le voit, on l'a vu chez Hydro-Québec, on le voit dans d'autres, là, Santé Québec, même affaire. Tu as des gens à l'interne qui veulent pas que le ministère de la cybersécurité vienne se mêler, mais en même temps, c'est le politique qui ramasse les problèmes quand il y en a, là.
Oui, ben c'est de deux côtés, hein. Puis là, si ça vous intéresse, puis ça va être vraiment le fun. J'ai pas l'heure exacte, mais c'est vendredi en après-midi, si je me trompe pas. On a une présentation au Hackfest de quelques personnes qui travaillent en tant que consultants pour le gouvernement.
OK.
Que la présentation va être sur les appels d'offres qui sont mal foutus. Puis ça va brasser, là. Fait que allez voir ça. T'sais, tous les appels d'offres au gouvernement, souvent, c'est géré par l'équipe qui les écrit, je sais que j'ai oublié le nom. Et les équipes, mettons, de sécurité ou ceux de développement et autres sont pas inclus dans le processus. Fait que là, on se retrouve avec un appel d'offres qui est écrit d'une manière qui ne fit pas avec ce que le projet a besoin. Et évidemment, comme tu viens d'expliquer, c'est aussi les amis des amis. Fait qu'il y a des appels d'offres qui sont écrits pour obtenir des personnes spécifiques et des appels d'offres que parce que l'équipe qui l'écrit veulent suivre les règles qui vont ouvrir l'appel d'offres à tout le monde quand ils ont déjà des projets en place, mettons, avec l'entreprise X. Là, ils vont dire, ouais, mais pour être fair, il faut l'ouvrir à tout le monde. Fait que là, ils mettent l'entreprise X dehors puis ils recommencent le projet à zéro puis là, ça coûte 100 millions de plus parce qu'ils répètent, ils réinventent la roue tout le temps. Fait que t'as autant l'ami que je refais tout croche.
Mais il y a des intérêts là-dedans aussi. Hein? On a intérêt à peut-être favoriser une gang plus qu'une autre parce qu'il y a peut-être au bout de la ligne de l'argent qui attend. Puis là, je veux pas dire qu'il y a de la corruption, c'est pas ça que je veux dire. Mais il peut avoir des sources de potentiel de conflit d'intérêts.
Ben, il y a du conflit d'intérêts. Des fois, ça n'a pas de sens de changer. Des fois, c'est parce qu'on vise une personne fixe parce qu'on s'entend que l'appel d'offres a été écrit souvent par eux. Là. Je pense que ça clique, c'est un peu ça qui est arrivé.
Ouais.
Mais juste en sécurité, tu sais, quand on parle, moi, j'ai été plus impliqué au niveau des, mettons, des tests de sécurité, là, tester mes applications, trouver des problèmes. Mm. Souvent, les appels d'offres, ça va être dit, ben, on veut quelqu'un qui a les certifications ABCD. Puis dans la province de Québec, il y a une seule personne qui a ABCD. Fait que, tu sais, d'un, c'est extrêmement triché. Puis souvent, cette personne-là, c'est l'ami de l'ami, puis ça ne veut pas dire qu'elle est compétente non plus. Là.
Ah, c'est ça. Bon, on l'a vu avec Dodo, puis Loulou et autres. Là. Ça avait l'air à s'échanger pas mal de soirées pyjama. Là, on fait quoi? Le reality check, on le voit là, en pleine face. Là, on a sa clique. On a le ministère de la Santé. On a vu des dépassements de coûts. Là, c'est un système de ressources humaines. Ça devait coûter 250 millions. On est rendu à 750 millions. C'est l'équivalent de sa clique. On l'a déjà là, en santé devant
c'est
nous.
C'est ce qu'on sait.
Mais c'est quoi la gang du Access, là, c'est super drôle, la communauté. On a créé une nouvelle unité monétaire. Fait qu'aujourd'hui, on peut parler que quand on fait un projet qui coûte 1 milliard, ça coûte 1 sa clique. Fait qu'on est rendu là.
Ouais.
Non, c'est triste. Mais non, mais pour vrai, qu'est-ce qu'on fait?
Toi, là, Patrick Mathieu, mettons, t'es François Legault. Je te donne les clés du classeur au complet. Là. Mm-hmm. L'État québécois en informatique, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait?
Le problème, là, c'est que je pense qu'il faut que ça se fasse, que ce soit moi ou quelqu'un, peu importe. Mais cette personne-là ne restera pas en place longtemps. Mais il faudrait qu'elle soit en place pendant un moment. C'est qu'il faut mettre beaucoup, beaucoup de monde dehors. Mais on met personne dehors. Tout le monde qui font des mauvaises choses sont tablettés sur un autre projet puis ils continuent d'être au gouvernement puis d'être payés. Ça, c'est d'un désastre qui n'a pas de sens. Puis, tu sais, depuis mes premières années au gouvernement, là, au début des années 2010, j'ai vu ça à tous les endroits que je suis allé au gouvernement. Du monde qui pense qu'ils sont compétents puis qu'ils sont promouvoir, mais au final, ils sont donné une paye pour qu'ils soient assis à quelque part. Pas qu'ils touchent à rien, pas briser rien. Mais ça coûte cher. Puis le problème avec ça clique, d'un, on n'a pas mis personne là. C'est la haute direction interne. Tu sais, c'est les personnes qui développent ces solutions-là ou qui choisissent ces solutions-là n'ont pas les compétences pour faire ça. Pourquoi qu'ils sont toujours en place? Au privé, là, c'est un directeur ou un VP. Ton objectif, c'est de faire un projet pour 100 millions puis il te coûte 1 milliard. Je suis désolé, mais t'as plus de job le lendemain.
Là, c'est
aussi simple que ça. Mais il n'y a pas de colonne, il n'y a pas personne qui a une volonté de dire bon, on va couper et faire les choses comme il faut. Puis c'est pas une affaire d'être droite ou gauche, c'est une affaire de common sense, là, de base, là. C'est la logique, simplement. Moi, je trouve ça triste. Mais je pense qu'il faut que ça commence là. Puis on l'a pas vu à sac, on ne le voit pas encore au Santé Québec, puis ça va continuer, je pense.
Est-ce que ça fait en sorte que les gens qui sont vraiment compétents décident de quitter le bateau puis d'aller au privé?
T'as une partie de ça, puis t'as une autre partie qui est quand même au gouvernement, mais ils ont de la difficulté à avoir le pouvoir. Il y a plein de bons monde là qui se battent à tous les jours.
Des gens qui travaillent pour le gouvernement,
ouais. La structure, la bureaucratie, le red tape, tous les blocs. Fait que tu sais, j'ai déjà dit, on a un podcast pis on en parle souvent de ce sujet-là, mais tu sais, à quand les fonctionnaires qui sortent pour dire que faudrait peut-être couper des personnes qui refusent d'entendre la réalité? Parce qu'il y en a beaucoup à la SAC, sur le projet de la satellite, qui ont chialé et qui ont vu les problèmes.
Ben oui.
Ça a été ignoré au final. Là.
Oui, oui. Mais
pas une personne, là. C'est des centaines. Là.
Mais le problème, c'est pas c'est la source de l'argent, selon moi, parce qu'un ministère qui dit qu'il va faire un projet informatique de 100 millions, puis finalement, ça coûte 400 millions, mais lui, il est allé chercher de l'argent, il a justifié au gouvernement de l'argent, puis le gouvernement il a donné, tu comprends? Donc, dans les ministères,
y a deux niveaux,
on se bat pour aller chercher plus d'argent, hein, c'est ça un peu. Le monde des ministères, tu parles avec des gens qui gèrent des ministères, leur but, c'est pas de se faire couper des crédits, là. C'est d'aller en chercher toujours plus, tu sais.
Bien, c'est pas pour être plate, mais ma job de consultant, quand j'ai commencé, dans les premières choses qu'on m'a expliquées, puis ça, c'est autant à l'interne du gouvernement qu'en tant que consultant, là. Quand tu arrives au mois de mars, là, puis il te reste 3 millions de billets,
voilà, c'est ça.
Tu flambes ton 3 millions sur de la cochonnerie, là.
C'est ça, exactement.
Puis c'est ça qu'on se faisait demander. Puis c'est pas juste les consultants, les internes approuvent aussi. Parce que, je vais perdre mon budget. Ouais, mais t'en as pas besoin de ton budget. Ouais, mais il faut le brûler pour avoir.
Ah ouais.
C'est ça la mentalité.
Et la mentalité, c'était on brûle l'argent, mettons, d'un photocopieur. Mais là, les photocopieurs n'ont plus, là. Fait que ça prend d'autres projets où on peut brûler l'argent qu'on n'a pas flambé dans l'année, là. Donc, on a des consultants, on a de l'informatique. C'est flou, hein. En même temps, mon budget n'est pas coupé, hein. Les gens. Les top guns des ministères, les sous-ministres, l'argent rentre pareil.
Ben oui, puis le problème, c'est que les appels d'offres ne sont pas toujours définis correctement.
Ça, c'est
les
compagnies de
consultants ne sont pas fous, ils en profitent. Fait que tu me dis de faire A, au final, tu voulais B, fait que je te fais des demandes pour faire B, fait que c'est sûr que le projet augmente. Mais aussi, ils font la grosse problématique, je crois, là, puis ça, je ne sais pas comment la réparer. Souvent, c'est des projets de multiples années. T'sais, c'est des 2, 3, 5, 10 ans.
Ouais.
Au privé, un projet, c'est du 3 à 6 mois en moyenne, des fois un an, mais là, un an, c'est la vision. T'sais. Tu vas voir, ton projet d'un an va être découpé en mois ou en quart d'année. Tu ne verras pas dire, on va faire ce projet-là pour dans 8 ans. C'est sûr, tu ne peux pas contrôler l'argent. C'est impossible, là.
Ouais,
3, 6 mois, c'est
dur, là. Ouais, puis pour les politiciens, eux autres sont élus aux 4 ans. Donc, eux autres, ils doivent revenir 4 ans, promettre, 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 pour se faire élire. Donc, on parle de contrôle des projets. Et là, les consultants prennent le contrôle. Et il doit y avoir des... Dans chaque ministère, il y a des consultants top gun. Là, on parle des sous-ministres qui sont des top gun, mais tu as des consultants payés très cher qui deviennent comme les référents de ces gros ministères-là. Donc, ils leur font faire à peu près n'importe quoi.
Hey, tu as des consultants qui sont pas en plein pendant des années. T'sais, c'est limite légal au niveau fiscal, en plus. Mais tu sais, quand tu as des consultants qui sont là plus que 3-4 ans, là, dans le même rôle, engage quelqu'un.
Ouais.
Ça n'a pas de sens.
Donc, le
Mais non, j'allais juste dire que le problème, c'est que là, bien évidemment, les salaires ne sont pas là. C'est pour ça que le monde va en consultant. Ah
ouais. Ah, exact.
Ben, oui.
Le ACFES, vous travaillez beaucoup avec le secteur privé aussi, il y a du gouvernemental, ils viennent voir, là, j'imagine, puis ils viennent prendre les meilleurs, s'inspirer des meilleures idées, mais vous travaillez avec le privé, puis le privé, il y en a de l'idée, là. Je veux dire, des compagnies, parce que vous faites ça aussi, hein, vous mettez des bugs, vous mettez des problématiques, et là, les gens doivent travailler à trouver des solutions, là.
Oui, c'est en plein ça. Puis ça se passe jeudi soir, c'est 24 heures de temps au centre des congrès, là, on appelle ça un CTF. Dans le fond, c'est des infrastructures informatiques vulnérables volontairement, là, quand on a une équipe d'à peu près 20 personnes qui construisent ça durant l'année. Puis là, tu as à peu près 300-400 personnes qui vont pirater ces infrastructures-là pour trouver des problématiques. Fait que autant des banques, des compagnies d'assurance, le gouvernement, des étudiants qui participent à ça. On a vraiment beaucoup de talent là au Québec là-dessus. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Mais si vous voulez voir tout ça, là, visuellement, c'est impressionnant. Même cette année, ben, depuis l'année passée, en fait, on a dans ce concours-là, il y a ce qu'on appelle un concours de sécurité physique. Il est comme un escape room, mais de hacking. Fait qu'il faut que tu réussisses à rentrer dans une salle, de pas te faire détecter par les caméras, d'ouvrir des serrures, de pirater le réseau sans fil, etc. Plein de choses comme ça. Et la qualification, c'est comme une bombe qu'il faut que tu désamorces.
C'est bon,
ça risque d'être solidement le fun, mais le visuel de ça est incroyable.
C'est dur. Ouais.
Cette année, on a même on a un village, enfin un village, c'est une salle dédiée à un sujet, qui s'appelle SCADA et OT. Dans le fond, c'est toute l'électronique, les composantes qui gèrent les barrages hydroélectriques, les éoliennes, les trains, etc. Cette année, une des entreprises a développé un panneau de 8 pieds avec des fausses éoliennes dessus, puis un train. Puis, je pense que 5 000 $ à gagner là-dessus. Pour que tu réussisses à pirater chaque module électronique et autres. Puis, tu vois, l'année passée, il avait fait ça. Il y avait 3-4 niveaux. Évidemment, il y a un petit peu d'ego dans le domaine. Fait que, tu sais, il y a certains qui disent, passer le niveau 2, il n'y a pas personne qui va réussir, là, c'est sûr, là. Fait qu'évidemment, ils se sont rendus au niveau 3-4. Puis, cette année, il y en a encore plus. Ça risque d'être très intéressant, mais ça, on a besoin de monde dans ça, parce que c'est des infrastructures critiques.
Oui.
Là.
Ah, oui.
C'est le barrage hydroélectrique puis tous les projets d'éoliennes.
Et ça, on
c'est
en
connecté
voit.
Connecté sur des modules. Là.
Oh, oui, de la cyberfraude, il y en a un peu partout. Patrick Mathieu du ACFES, merci beaucoup. Puis on va suivre les activités du ACFES au cours des prochains jours. Tu me dis, c'est pas un problème de talent, c'est un problème de vision.
Vision, puis d'essayer de... Je pense qu'il faut pousser plus. Là. J'aime pas toujours ça me comparer aux États-Unis, mais tu sais, toute la Silicon Valley, là, ils mettent de l'argent, puis ils poussent, puis ça va vite. On a peur de ça ici, je sais pas pourquoi.
Ouais, c'est bon. À suivre. Merci beaucoup.
Yes.
Salut.
Bye.
Voilà, Patrick Mathieu du ACFES, ça commence là, dans les prochains jours. Mais c'est capoté, là, parce qu'ils font des concours.
Ouais, oui.
Les autres, ils simulent.
Vraiment intéressant.
Ben, ils mettent des problématiques, ils mettent des réseaux, puis ils disent à
piratez-moi ça.
Oui, pour trouver des solutions.
Ouais, c'est ça, exact.
Pour contourner les pirates. Puis après ça, ben, les autres, ils apprennent beaucoup de tout ça. Là. Après ça, on décortique. On dit, ah, il est rentré par là, il a fait ça. OK, il a de la manière avec tel logiciel.
On va patcher les problèmes.
Voilà. Après la pause, Rodolphe Osny débarque dans le show.
Couture.
Restez là. On revient dans un instant.
Dans le Mid, Radio X. Morais. Live.
Live. Avec Dominique Morais, Dan Gravel et Dom Dumas, lundi au vendredi,
6 heures.
Radio X.
Présenté par Multiconfort FP. Les rabais fou se poursuivent. Des rabais exceptionnels sur nos thermopompes se poursuivent en décembre. Informez-vous, Multiconfort FP, le confort à prix fou tout le mois de décembre.
Les viandes Pépé à Lille, c'est bien plus qu'une boucherie. C'est une équipe de passionnés qui vous conseille et vous offre viande, volaille, poissons et fruits de mer de la meilleure qualité au meilleur prix depuis 50 ans. Les viandes Pépé à Lille, une histoire de succès. Viandalé.com.
Profitez des soldes de l'après-Noël chez Liquidasport. Jusqu'au 4 janvier, obtenez jusqu'à 50% de rabais sur articles sélectionnés et un minimum de 20% de rabais dans les départements. Ski, planche à neige, bottes d'hiver, tuques, mitaines et gants. Liquidasport, avenue Jules Verne, Québec.
IGA des sources se présente.
Le temps des fêtes. Recevez en grand cette année avec les produits du pied de cochon. Au menu, le gâteau aux fruits, la fameuse tourtière, le ragoût de pâte, la toute nouvelle bûche de Noël et plusieurs autres produits.
IGA des sources, des découvertes à chaque rayon.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Couture dans le mid.
Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Hey boy.
Radio X.
Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, hein?
Je sais pas.
Ben voyons.
Ben voyons.
Pierre.
Tu es en train de perdre toutes les notions. Ben non.
Ben oui.
Ben non. Mais pour avoir un peu le poids média. Il n'y a pas juste les médias traditionnels à ça. Je pense qu'on prend, on prend le poids média dans bien des réseaux. Réseaux sociaux. Jean-François Dubois d'Influence Communication. Jean-François, comment vas-tu?
Ça va bien, puis vous autres?
Ça va très bien.
Ça va très bien.
Hier, les gars, là, c'était la grande guignolée des médias.
Oui.
C'est le fun, parce qu'on ramasse de l'argent, des denrées non périssables, on s'intéresse à la pauvreté. Mais juste de même, là, ça serait peut-être le fun, suggestion comme ça. Mettons qu'un jour, on décide d'en faire un peu moins lors de la journée de la grande guignolée des médias, et un peu plus ou un peu mieux le reste de l'année. Parce que 70 % de l'intérêt de la pauvreté en une année, ça dure une journée au Québec, c'est lors de la grande guignolée des médias.
Oui, et pourtant, après les banques...
Il
n'y
a plus de pauvres au Québec le lendemain.
Ouais,
il n'y a plus de cause à ça, il n'y a plus d'impact, il n'y a plus rien. On n'en parle plus.
Ben ça, c'est les médias, hein? Parce que pour le reste, moi, je regarde les files d'attente d'un banque alimentaire, c'est plein, il y a tous les jeudis, là.
Et ils sont pas, ouais, les files ne sont pas plus petites, là.
Non, les files s'allongent.
C'est la preuve que... Dans les médias, souvent, ce qui va motiver l'intérêt, c'est la saveur du jour, la mode du moment. Pas l'importance d'un sujet, mais c'est quoi le beat aujourd'hui? Ah, c'est la grande guignolée des médias. OK, parfait, on en parle. Demain, on n'en parle plus. Et c'est ça, à chaque année, ça me fait tout le temps un pincement au cœur en me disant, me semble qu'il y aurait-tu moyen de faire mieux que ça?
Ah, absolument. Non, je suis d'accord avec toi. Mais ça en dit long aussi sur comment nos gouvernements sont... Comment on dit ça? Ils nous appauvrissent aussi. Ils pourraient aussi faire le ménage. Tu sais, dans le fond, il faut regarder en amont d'où vient. Les gens ont plus d'argent parce qu'on donne 43 % de notre salaire en impôts et en taxes. On ne voit pas le bout. On n'est pas capable de voir le bout.
Puis, évidemment, l'éducation, ça a un impact aussi sur la pauvreté. La santé a un impact également sur la pauvreté. Les gens qui sont très malades, c'est un facteur d'appauvrissement très important.
La bouffe.
Tout ça. Puis, et probablement que les gouvernements ont juste baissé les bras avec le temps. Et les médias nous le rappellent, nous remettent ça d'en face à chaque année avec cette même affaire-là. Puis c'est extraordinaire, la grande guignolée des médias. Je suis d'accord avec ça. C'est une très bonne idée. Mais il me semble qu'on pourrait en faire plus autrement, parler plus des causes. Et c'est pas que les médias... Le but des... On revient tout le temps à la même affaire. C'est quoi le rôle des médias? Le rôle des médias, c'est pas de changer le monde. Le rôle des médias, c'est de faire du cash, c'est d'être rentable. Point final. Et ça démontre que, Colin, on arrive dans une situation où on devrait s'intéresser davantage à un sujet, puis malheureusement, c'est pas une valeur haussière dans l'information de la pauvreté.
Et
c'est poche à raconter.
Ouais, et je t'annonce qu'il y a bien des médias qui sont pas rentables actuellement. Parce que le sujet n'intéresse pas le monde, mais ils continuent à essayer d'intéresser le monde avec des sujets qui n'intéressent pas le monde.
Il y a une autre affaire, Pierre, qu'il faut garder en tête, c'est que, et j'invite les gens à porter une attention, c'est qu'il reste à peu près entre 7 et 10 jours avant la fin de l'Assemblée nationale, avant qu'on arrête de siéger.
Oui.
Même affaire à Ottawa. Donc, dans 7 à 10 jours, on va tomber en basse saison en information.
Oui, c'est ça.
Et donc, on va tomber vraiment à pas grand-chose. Et Méfiez-vous des projets de loi impopulaires ou des nominations impopulaires,
ouais, hein?
Des projets de loi omnibus. Tu sais, normalement, quand à l'Assemblée nationale, on veut voter un projet de loi, on prend une journée, deux jours, trois jours pour en discuter, puis faire des mises au point, puis faire des ajustements. Mais tous les gouvernements, pas plus les caquistes, tout le monde a fait ça dans l'histoire, une espèce de loi Bayon où on te dit, en une nuit, on a 9 projets de loi à passer, il faut passer au travers. Alors, évidemment, dans ce temps-là, les politiciens de l'opposition ont beaucoup moins de temps, ça fait qu'on essaie de passer ça dans le fond de la gorge.
Ouais, exact.
De l'ensemble. Et il faut se méfier de ce genre de situation-là. Et encore une fois, cette année, ça s'en vient, là, dans une couple de jours. Alors, surveillez bien, parce que c'est sûr qu'on va essayer de nous en passer.
Et les gens décrochent, hein? Moi, je remarque, là, à partir du début décembre, là, les gens sont plus là. Tu sais, c'est d'autres priorités, là. Les gens, c'est le temps des fêtes. Les cadeaux, les magasins sont ouverts jusqu'à 21h. On change, puis il y a des gens qui n'écoutent plus, ils ne sont plus sur le poste. On est à autre chose.
Tous les gens qui nous écoutent qui auraient envie de dire des conneries dans les prochaines semaines. Lorsqu'on arrive à la fin du temps des fêtes, on tombe toujours dans ce qu'on appelle la période du dîner de cons. Le dîner de cons, c'est que tous les gens dans toute la programmation, ils sont revenus, mais l'actualité n'est pas encore revenue au maximum. Ça veut dire que le premier qui dit niaiserie,
il
prend des proportions démesurées. C'est pas pour rien qu'on fait des émissions spéciales sur le bye-bye. C'est parce qu'il n'y a rien dans l'actualité.
Oui, et d'ailleurs, la nouvelle qui a fait le plus jaser des derniers jours, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui aurait dû fermer sa trappe qui l'a ouvert. Hein? PSPP, s'il parle pas de ça, il parle pas de la nomination de Mark Miller, puis on avait un sondage, puis il est en tête. Là, on a vu Pablo en chute libre, puis le Parti québécois monte. Parle pas, vose pas. Relax, ben non, ça en va se mettre les pieds, puis ça en va se mettre le milieu culturel à dos.
Ça arrive des fois quand le politicien, ça le chatouille son ego.
Oui, je sais pas ce qu'il y avait là.
De communication là.
Là, il voyait Pablo dans le trouble. Là, il regardait Legault. Là, il se dit, moi, je suis capable, moi aussi. Bon, je vais mettre des pelures de banane, puis je vais glisser, moi aussi.
Ben, c'est ça qui a surpassé cette semaine. En fait, l'histoire de Pablo est arrivée deuxième dans les grosses nouvelles de la semaine.
Ouais.
La première, c'est la nomination de Miller puis la réaction de PSPP. La réaction de PSPP. C'est sûr qu'en faisant ça, ben, le PLQ est passé deuxième, donc il a fait ombrage. Il a créé lui-même une éclipse médiatique.
Oui, il s'est créé lui-même
pour
aider une éclipse.
Le PLQ.
Ben oui, tu sais, je sais pas, là. Tu sais, quelqu'un hier, je connais, qui analyse beaucoup les médias, puis il disait, écoute, là, PSPP, c'est pas fort, là. Pas fort, là. Il réussit à se mettre quasiment le milieu culturel à dos par lui-même, là, tu sais.
Oui, oui. Et puis cette semaine, le milieu culturel a été très sollicité par ça, par cette nouvelle-là, la question de la revente de billets de spectacle. Donc, l'ensemble du domaine culturel a été mis de l'avant énormément cette semaine, mais on ne s'intéresse pas plus au contenu culturel. Là. Je veux dire, la culture cette semaine, c'est la controverse avec Mark Miller et PSPP.
Exact.
C'est ça, la culture, cette semaine.
Fait que là,
ça y est, deux gros dossiers. L'autre nouvelle, c'est Magali Picard et Caroline Senneville qui n'ont pas compris encore que le message des centrales syndicales commence à être usé et qu'on sait, le message devient de moins en moins porteur dans les médias.
Ben, t'as vu la manif?
Allez faire un tour à Tout le monde en parle.
Ben oui, puis t'as vu la manif à Montréal, puis Magali Picard disait en bas de 100 000, on va faire rire de nous autres, puis là, les autres, ils nous arrivent avec un 50 000. Bon, on regarde les photos, bon, on dit, il n'y a pas plus que 15-20 000 personnes là.
Ouais, c'est ça.
Hein?
T'en plein ça.
C'est ça, pareil.
En plein ça. Puis tu sais, je veux dire, il y a une époque, le monde syndical, on le sait historiquement, le monde syndical avait beaucoup d'utilité. Le monde syndical était là pour défendre les moins bien nantis, défendre les petits travailleurs. Alors qu'avec le temps, le message s'est érodé. Avec le temps, le message, c'est souvent plus « m'a te casser à la gueule si tu me donnes pas ce que je veux ».
Exact.
Pas une centrale en particulier, mais le monde syndical doit revoir son approche de communication. Parce que le message devient moins porteur, parce qu'on est beaucoup moins sympathique à leur cause, parce qu'il est temps qu'ils se renouvellent.
Ben c'est des fat cat. Ils ont le beurre, ils ont l'argent du beurre, ils ont les fonds de pension, ils ont tout. Puis là, on m'a dit, attends une minute, là. Le monde dans la rue, la moitié du Québec gagne 50 000 piastres et moins. Là. Puis là, c'est un monde-là, à STM, la grève, là, par exemple. Là. Tu regardais les conventions, puis là, tu dis, attends une minute, là, vous êtes là pour ça, vous autres, là. Puis pendant ce temps-là, le petit monde qui veulent aller à l'hôpital puis aller à leur rendez-vous sont pas capables d'avoir accès à du transport en commun. Tu sais, c'est le monde à l'envers, carrément.
Tu sais, c'est parce que des fois, tu as l'impression, à un moment donné, ils sont tellement puissants dans leur tour d'ivoire qu'ils sont un peu débranchés. Un jour, je rencontre le président, je ne dirai pas lequel, le président d'une des grosses centrales syndicales qui me dit, Jean-François, pourquoi je m'énerverais? Il dit, je suis une des plus grosses centrales au Québec, je suis à la tête d'un gros fonds d'investissement, ça va bien, mes membres sont heureux. Il dit, moi, quand je parle aux médias, m'en fous que ça soit vrai, ça ne soit pas vrai. Moi, je veux fourrer les médias avant que les médias nous fourrent.
Hey, Caroline, hein?
Fait tu sais, dans le fond, tu sais, quand tu te sens au-dessus de tout, à un moment donné, tu as besoin de te faire ramener par les gens.
Mais tu sais, dans le cas de Magali Picard, parce que Mme Senneville, beaucoup plus réservée, je te dirais, c'est la CSN est, tu sais, d'ordinaire, là, est plus réservée un peu au niveau syndical. Mais la FTQ, bon, on les connaît, là. Mais Magali Picard, d'après moi, elle a scoré dans le goal de son équipe une couple de fois dans les dernières semaines. Je sais pas, là. J'analyse ça ouais, froidement, là. Pas sûr qu'elle aide la cause.
À ce point-là, elle serait bonne pour le Canadien. Ça arrive une couple de fois avec le Canadien de ce temps-ci.
Exact. Mais l'impact, quoi, d'après moi, je jouerais avec le club de soccer de Montréal. Là, elle pourrait scorer des buts dans son but.
L'autre nouvelle, c'est Stéphane Guilbeault, évidemment, qui du Conseil des ministres, qui continue de faire réagir à propos de ses commentaires sur au Conseil des ministres. Et la guerre en Ukraine... Vladimir Poutine qui rejette le plan de paix américain présenté pour l'Ukraine. Ça, c'est les gros dossiers de la semaine.
Ouais.
C'est ça qui a fait jaser
Stephen
le
Stephen Guilbeault qui démissionne du caucus, ouais, mais qui reste député libéral parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il s'est fait promettre, là. Ils ont-tu promis un poste dans une ambassade bientôt, là, près de chez vous? D'après moi, c'est ça que ça... Puis dans le temps des fêtes, comme tu dis, là, ça va passer comme une lettre à la poste, là.
Oui, oui, puis attendez, on dit ça, mais il va y avoir des nominations dans quelques jours.
Oui.
Des juges, des directeurs, on va nommer toutes sortes de monde, des nominations des fois très impopulaires, mais ça, c'est avant le temps des fêtes. Fait quand les médias vont venir au mois de janvier, ça va déjà être des vieilles nouvelles.
C'est du vieux stock.
Écoute, il n'y aura aucune espèce d'intérêt.
Tu le vois, toi, t'es le poids média, tu mesures ça à chaque semaine, t'as des clients qui te demandent de faire des compilations. La semaine dernière, c'était quelque chose. Là, c'est cette semaine, puis la semaine prochaine, c'est autre chose, là.
Mais c'est étonnant, je te dirais, avec, tu sais, quand on regarde le top 5 qu'on vient de faire, là, c'est très, il y a de la viande là-dedans, là, c'est viandeux, il y a du stock. Même si c'est la controverse, il y a beaucoup, beaucoup de stock. C'est étonnant qu'à cette période-ci de l'année, alors qu'on est sur le point de tout arrêter, que l'action soit encore aussi vif, que ça soit aussi dynamique comme ça dans les médias.
Ouais, puis là, tu sais, le cas de Pablo Rodriguez qui était comme relégué là, par PSPP, puis il a sorti avec Mark Miller. Bien là, Pablo, un matin, il y a une pétition qui circule auprès des membres du Parti libéral. Ça, c'est pas fini non plus. Hein. Ça pourrait alimenter le chemin de croix de Pablo dans les prochains jours.
Puis, en passant, là, il y a juste pour rappeler au monde qu'il y a 84 % des nouvelles qui vivent et meurent en moins d'une journée. L'affaire du PLQ, ça fait 3 semaines que ça roule.
Non, c'est infernal. C'est infernal. Pour un chef là, qui tu sais, tu dois sortir la tête de l'eau, lui, à tous les jours, il reçoit une brique sur la tête pour le recaler, là.
Et juste comme ça aussi, c'est drôle parce que, tu sais, j'analyse souvent les étiquettes qu'on donne dans les médias. Et quand on parle du Parti libéral, continuellement, évidemment, on parle de l'étiquette Parti libéral du Québec. Continuellement, on parle de l'étiquette de corruption.
Oui, c'est ça.
Mais il n'y a jamais personne qui parle du plus grand scandale de corruption, du scandale des commandites. Il n'y a plus personne qui parle de ça. Le Parti libéral fédéral, c'est lui qui était à la tête de cette espèce de complot-là.
C'est ça.
Merveilleusement orchestré pendant des années, qui a permis au parti de s'enrichir, qui a permis à plein de monde de s'enrichir. Il n'y a personne qui en parle, mais alors que ça a été le gros scandale qui a mis en lumière tout un paquet de magouilles politiques pendant des années, des années, des années. Mais il n'y a plus personne qui parle de ça. Fait que, parce que le fédéral, c'est loin de nous autres. Le fédéral, en général, il faut vraiment que ce soit très gros pour qu'on y accorde beaucoup d'attention, tandis qu'au provincial, n'importe quoi prend beaucoup plus d'importance dans nos vies.
Donc, la marque libérale, qui est la marque du parti au Québec, le Parti libéral du Québec, ben, est dure à changer. Là, hein? Va falloir... Moi, je te le dis, ça va prendre un coup de barre. Puis ma théorie, c'est que Marois Risky pourrait s'en venir chef. Là, on changerait de l'image du parti transparente, parce qu'elle, c'est un peu elle qui a toute partie ça, là. Fait, moi, je pense que ça va prendre un... Tu sais, c'est un stratège libéral. Faut que tu changes non seulement le politicien, c'est-à-dire le chef du parti, parce que là, on comprend que Pablo, je sais pas là, où ça va aller, mais ça va pas bien. Mais faut que tu changes...
Changer la dynamique.
Oui, l'image du parti. Puis là, faut que tu amènes quelqu'un qui est blanc, plus blanc que blanc, là, tu comprends? Donc,
avec beaucoup de charisme aussi.
Transparence, puis on jouera pas dans le fling-flang, puis c'est tout ça.
Pierre, t'as tellement d'expérience dans le domaine économique, tu vas savoir de quoi je parle. Je me dis, si la Caisse de dépôt a réussi à faire oublier son 40 milliards de dollars...
Oui, exact.
Le PLQ devrait être capable de passer à d'autres choses aussi.
Oui, mais on pensait que c'était ça qui était fait aussi avec Pablo, là. On pensait que c'était cette histoire-là. Puis là, écoute, on retombe dans une vieille patente, puis des brownies, puis des chèques, puis des 500 piastres, puis des gens d'affaires qui se mettent en ligne.
La même méthode.
Oui, exactement. Ouais. Fait que c'est ça, là, que là, c'est, écoute, dans le temps des fêtes, puis t'as vu le dernier sondage, là, il est en chute. Il est pas fini, la chute, elle s'accélère, là. C'est 6 points en l'espace d'une semaine et demie, deux semaines. L'atterrissage n'est pas encore arrivé, là. Ça va être brutal.
Puis, on a changé de chef, mais on n'a pas changé de... J'ai pas l'impression qu'on a changé de stratégie de communication.
Moi aussi. Donc, je pense que le temps des fêtes, là, il y a du monde qui vont prendre des notes, là. En tout cas, on leur souhaite.
Puis peut-être que l'idée d'avoir un chef qui est non élu aussi nuit beaucoup à la communication du parti, là. Parce que t'as comme deux messages. T'as les gens qui sont à l'Assemblée nationale, puis t'as le Parti libéral après, là.
Oui, oui.
Mais gars, Carney n'était pas élu, mais il gérait. Pablo a mal géré. Dès le départ. Écoute, c'est une staffer qui tasse une élue. Voyons donc, tu tasses la staffer, puis tu laisses aller les élus. Ils étaient deux non-élus, là. Pablo pas élu, puis Mme Hayes n'est pas élu. C'est ça qui a créé une vague, une commotion à l'intérieur du parti. Moi, j'ai jamais vu ça. Ils ont géré ça en amateur dès le départ, là.
C'est parce que ça a été mal géré. C'est pas le geste, ça a été mal géré.
Fait que le doute fait que Pablo sera jamais capable de gérer les affaires du Québec.
Ça reflète le leadership. Bon,
c'est ça. Il n'est pas capable de gérer les affaires internes. Non, c'est ça. Puis là, j'ai hâte de voir comment ça va coller, ça, dans le temps des fêtes. Là. Les gens, tu le sais, Jean-François, quand les gens, là, ils se réunissent là, aux fêtes, là, puis on entre deux canapés, puis un petit verre de vin avant d'être trop chaud, là, tu jases de ça, là, de toutes ces affaires-là de politique.
Et je peux-tu te dire que Pablo ne doit pas avoir hâte au bye-bye?
Ah, il va se faire grêler, là, je veux dire, c'est sûr.
Ben oui, dans la gang, là, ça risque d'être pas mal lui qui mange des mornifs, là. Est-ce que ça va être son dernier bye-bye? Ça, c'est le
Ah, parce que oui.
Non, mais mais tu comprends là, la dynamique, parce que le monde, après les fêtes, ça va jaser de ça, là.
Oui, c'est sûr.
Il a jusqu'à... Puis là, t'as le rapport qui doit être... Il y a un juge qui doit faire un rapport, là. Lui, il se donne jusqu'au 31 janvier. Fait que là, tu n'as pour encore deux mois chemin de croix, là. Ah non, il faut qu'il donne... Tu sais, quand le puits de pétrole brûle, tu le sais, d'un com, comment, qu'est-ce qu'on fait? On fait sauter le puits de pétrole, hein? Ça prend une grosse nouvelle, là. Je pense que c'est ça.
Ah oui. Puis il faut reconnaître qu'il y a un problème, mais il faut les régler, des problèmes. Tu sais, tout ce qu'on raconte, tout ce qui va mal actuellement, là, c'est que ça a été mal géré. C'est de la mauvaise gestion.
C'est ça, exact.
Point final. Tu sais, c'est l'affaire des brownies, là, c'est de la mauvaise gestion. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça que le parti est corrompu. Il y a probablement quelqu'un qui est un tout croche, qui a essayé de faire des affaires, mais c'est pour ça que c'est de la mauvaise gestion. Et exact. C'est ça qui fait ombrage à tous les efforts de renouvellement, de reconstruction de ce parti-là.
La marque.
C'est une marque de commerce.
C'est ça.
Le parti politique, c'est une marque de commerce. Voilà. Même si on est tous très éduqués aujourd'hui, on continue de voter pour des politiciens parce qu'on y aime la face ou on ne lui fait pas confiance.
Exactement.
On est d'accord comme ça. Et le parti, sur des détails, c'est auto-pelure de bananiser.
Jean-François Dumas d'Influence Communication, vous êtes salué. Si on ne s'en parle pas avant les fêtes, ben joyeuses fêtes.
Oui.
Et puis,
Je vous en souhaite une bonne à vous autres aussi, les gars. Soyez pas trop sages. Puis on remet ça au mois de janvier, on va se gâter.
Exact. Salut.
Bye.
Bye-bye.
Salut, bye.
Voilà. Non, mais c'est ça. Les partis politiques, c'est une marque. Une marque de commerce.
Tout à fait.
Comme quand tu achètes une bière Heineken. Quand tu achètes... C'est plate, mais c'est ça. Tu as une image de marque autour de produits.
Puis quand t'as une crise, tu dois prendre le contrôle du message. Tu dois aller chercher le leadership de ce qui va sortir ensuite. Puis Pablo Rodriguez n'a jamais réussi à faire ça.
L'échapper.
Jamais.
À ligne de 1, quatrième essai, il reste 3 secondes.
Ben, il a mis le ballon à terre volontairement. Prenez-le. Prenez-le, me tente plus.
Ouais, mais il fallait qu'il rentre dans zone des buts.
Il n'est pas capable.
Il l'a pas fait.
Ben non.
Voilà. Hey, après la pause.
Oui.
On va ouvrir les lignes.
Absolument. 88-670-9098.
Je sais pas où tu t'en vas.
C'est vendredi. Moi, j'ai le goût qu'on s'amuse un peu. Deux questions pour vous autres. Premièrement, qui va partir en premier? Pablo ou François?
François Legault, de la CAQ, ou Pablo Rodriguez? Il y en a qui pensent. Puis, je pense que Rodolphe Osny, qui est notre chroniqueur du mardi en politique, lui, je l'ai entendu hier, puis il dit que les deux pourraient quitter.
En même temps?
Ouais.
Qui va partir en premier? Pablo Rodriguez? Moi, je pense que la semaine prochaine, ou même avant Noël, Pablo, il saute.
Imagine-tu les scripts du bye-bye? Les scripts du bye-bye doivent capoter.
Ils doivent être assis sur une chaise en attendant, puis regardent tout. Fait que qui part en premier? Puis l'autre question que j'ai envie de vous demander,
ouais.
Je vous mets un ultimatum, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez voter que pour la CAQ ou pour le PQ. Lequel est le moins pire entre les deux? Ah ouais. Lequel est le moins pire?
Ça, c'est chien, ça.
C'est chien. Mais je trouve que la question est bonne.
Bon.
Beaucoup de gens au Québec vont voter. À Québec même, vont s'orientent pour aller voter Parti québécois. Là.
Ouais, mais moi, je ne veux pas voter pour le PQ. Ça me tente
pas. Mettons que tu n'as pas le choix. Lequel est le moins pire?
Mais ça va en référendum. Voyons. Là, tu dis la CAQ. Avec le go, ben une CAQ... Avec, je sais pas, moi,
non, mais Mario. Mettons qu'ils changent de chef, là.
Ben, moi, je pense que c'est ça aussi. Mais en même temps, la CAQ, ils ont fourré tout le monde. Tu sais, ils n'ont pas livré. Ils livrent.
On s'amuse, là. T'as pas le choix, Pierre.
Oui, mais là, tu me fais mal.
Je le sais que je te fais mal, mais c'est ça l'objectif.
OK, OK. Regarde, on
88-670-9098.
On revient après la pause.
Couture dans le mid. Radio X. Le retour de Radio X.
Radio. X avec DH, Jordan et Mel Trudel. Lundi au vendredi, 15h.
Radio X. Présenté par Donnacona Ford. Tu veux t'offrir le cadeau parfait? Un F-150? Donnacona Ford. Tu veux un taux d'intérêt à 0%? Donnacona Ford. T'as un échange et tu veux le meilleur prix? On t'attend chez Donnacona Ford.
Enfin, un moment seul dans votre chambre. Chez Dormez-vous, on le sait que les fêtes, c'est un test pour l'harmonie familiale. Comme quand vous réinventez la fameuse sauce à votre belle-mère sans sa permission. Bon, ça, on n'y peut rien. Mais on peut quand même vous aider à prendre soin de votre relation avec le sommeil. C'est le solde des fêtes chez Dormez-vous. C'est votre dernière chance d'obtenir un matelas grand lit série Distinction à seulement 489 $. En ce moment, seulement chez Dormez-vous. Des conditions s'appliquent.
Tannez des pâtés à la viande et du ragoût? Prenez une pause et laissez PFK s'occuper de vos repas. PFK, c'est des produits 100% canadiens préparés sur place et frais en tout temps. De quoi régaler toute la famille. Passez-nous voir chez PFK à Sainte-Marie, Montmagny, Donnacona, Vanier-Amel, Saint-Nicolas, Galerie-la-Capitale, Beauport voisin de la SAQ et au 840 Bouvier. Cet hiver, pensez PFK, le meilleur poulet frit au monde.
Ce samedi 3 janvier, 16h, c'est le match en blanc au Rempart de Québec. Notre équipe sera vêtue de blanc pour la seule et unique fois cette saison au Centre Vidéotron et c'est gratuit pour les enfants grâce à CGI. Ce samedi, tout le monde en blanc. Réservé au rempart.ca.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Couture dans le mid.
Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Fait que... C'est ça.
Radio X.
Ouais, la faillite de Stéphane Huot. Parce que là, il y a des auditeurs qui disent... Malenfant, Raymond Malenfant avait aussi fait faillite. Lui, il avait des hôtels. Mais lui, sa valeur estimée de sa fortune à l'époque, c'était 400 millions. Là, tu le ramènes ça aujourd'hui. Mais c'était pas un montant comme ça, là. Avec
463,7.
Hey, c'est de l'argent, là.
Ben oui.
En faillite, là, pense-y.
Tout près d'un demi-milliard. En faillite.
En faillite personnelle. C'est pas ton empire, parce que non, l'empire, c'est pire que ça, là.
Oui, oui.
Lui, c'est sa faillite personnelle. Voilà. Notre invité, il est là.
Oui.
Médecin Karim El-Ayoubi, comment allez-vous?
Oui, bonjour. Merci. Ça va bien, vous?
Oui, ça va bien. La loi 2, est-ce que le gouvernement doit reculer? Est-ce que Christian Dubé a encore toute la confiance de François Legault? Là, on voit, il l'a tassé tranquillement. Il tasse. Il amène Mme Duranceau. Selon vous, où ça doit aller?
Ben, je pense pas qu'il recule sur la loi elle-même. Je pense qu'il devrait reculer sur la loi là, pour le bien de la population, honnêtement. Par contre, je pense pas qu'il recule sur la loi dans son ensemble, mais c'est certain qu'il va reculer sur certains aspects de négociation, d'après moi.
Ouais.
Et oui, je pense que malheureusement pour M. Dubé, c'est plus l'homme de la situation, parce qu'à un moment donné, peu importe son CV, peu importe sa carrière, peu importe le fait qu'il ait été capable de bien redresser beaucoup d'entreprises, qu'il ait une brillante carrière à la Caisse de dépôt et de placement, en ce moment, lorsque vous n'avez plus la confiance, c'est difficile d'être ministre de la Santé lorsque il y a à peu près même pas un seul médecin au Québec qui veut vous voir là. C'est pas... Et tu sais, c'est sûr qu'un ministre, un politicien ne fera jamais l'unanimité. Et s'il fait l'unanimité, c'est inquiétant. Ça veut dire qu'il est trop mou.
Ouais.
Par contre, lorsqu'il y a un rassemblement comme ce qu'on a vu en fin de semaine, c'est colossal. On n'est pas du tout là à l'ère, par exemple, de M. Barrette lorsqu'il était ministre, puis il était controversé, entre guillemets, mais il y avait quand même des médecins qui voyaient où est-ce qu'il s'en allait dans sa réforme. Il était un peu plus autoritaire que ses prédécesseurs, mais sans faire l'unanimité, il y avait quand même des choses que les médecins étaient capables de dire « OK, il y a quand même des bonnes choses ». Dans sa réforme, par exemple, il avait reconnu beaucoup, là, il avait donné des facteurs de bonification pour aider la prise en charge aux vulnérables, facteurs de performance qu'il avait mis à l'époque, mais qui était plus individuel. Donc, on était pas du tout là-dedans. Donc, je me rappelle, il y avait une portion de médecins qui étaient un peu réfractaires, mais d'autres qui disaient, il y a quand même des bonnes choses. Ici, on n'est pas juste dans les fédérations qui affrontent M. Dubé et qui ne veulent plus le voir là du tout. On n'est pas juste dans une mini-controverse ou une certaine controverse. On est vraiment dans une légitimité qui est très difficile à l'heure actuelle. Parce qu'il faut que sans faire l'unanimité, vous ne pouvez pas avoir tout un corps. C'est comme si, par exemple, ça serait la même chose pour les infirmières. Si le ministre de la Santé, il n'y a pas une infirmière qui veut le voir là, ça devient très difficile à ce moment-là. Et lorsqu'on a un corps de métier ou une profession qui est tellement contre nous à ce point-là, il faut peut-être se poser des questions puis dire, OK, même s'il y a peut-être deux, trois bonnes choses dans ma loi, ça peut-tu arriver que je sois allé trop loin? Ça peut-tu arriver que, un, c'est trop liberticide et que, deux, elle soit mal faite, mal ficelée et elle ignore certains dommages collatéraux sous-jacents.
On me dit que hier, autour du Centre Bell, en sortant, les médecins, ils se faisaient courtiser, notamment par des gens de l'Ontario. Là. Il y avait des associations qui recrutaient, ou en tout cas, qui étaient là pour les amener vraiment vers l'Ontario. Ottawa, notamment, là, il y a un nouvel hôpital, ou à tout le moins, un nouvel établissement qui cherche du monde. Là.
Oui, ben c'est ça. Lorsqu'on regarde les comparatifs avec l'OCDE, l'ensemble du Canada est en pénurie de médecins. Et avec le vieillissement de la population, c'est sûr et certain que je me mettrais à la place, par exemple, du ministre de la Santé de l'Ontario ou du premier ministre de l'Ontario qui regardait ça puis dit « Oh, il y a des médecins qu'on n'a pas formés, on peut les faire venir gratuitement chez nous. »
Ramasse ça, payer égaux, réclamer 200 $.
Et ça, Pierre, ça n'existe pas juste pour les médecins. C'est très important de le savoir. On a un exode assez important d'infirmières en Ontario, particulièrement lorsqu'on est sur les frontières.
Ouais.
Moi, je travaille pas loin des frontières et on a perdu beaucoup d'infirmières au profit de l'hôpital de Hawkesbury. Et généralement, celles qui s'en vont, c'est pas celles qui tirent de la patte. C'est souvent parmi les meilleures. Donc, c'est un peu le même principe. Lorsqu'on fait une loi comme ça, puis il y a un marché. Puis il faut bien que les gens comprennent, c'est qu'il y a un marché. Puis oui, les médecins ont à cœur de rester au Québec. La plupart peuvent, ça leur tente...
Bien, il y a 22 800 médecins au Québec, là.
C'est ça, exactement. Mais comme dans toute profession, c'est sûr et certain que lorsque ça devient... vos conditions de travail deviennent quand même... en ce moment, je ne dis pas qu'elles sont minables, c'est pour ça que je dis, mais avec cette loi-là, avoir constamment un poli de bureau au-dessus de la tête, c'est pas un patron, là, on s'entend, là, je réitère l'expression poli de bureau, c'est-à-dire surveiller les moindres horaires, vos moindres faits et gestes, obliger la délation. Moi, dans ma clinique, il faudrait que je nomme un délateur en chef de la clinique.
Non, ça n'a aucun sens. Ça. Mais de toute façon, il y a plein d'affaires là-dedans qui n'ont pas rapport. Les deux mesures que Mme Duranceau a parlé, là, qu'elle pourrait reculer, notamment le 30 là, pour les GMF, notamment on donne aux médecins un 30 pour payer sa paperasse, son administration. Ça, dit, finalement, c'est parce que la mesure, c'était qu'on allait payer directement le GMF. Et là, on accusait peut-être les médecins de se mettre une cote dans leur poche. Là, finalement, on recule là-dessus. Et l'autre chose, ça serait des primes à l'incitatif, là, à la performance, plutôt qu'à y aller avec une espèce de prime où, en fait, on enlèverait du salaire parce que vous n'êtes pas assez performant, là.
Bien, c'est sûr que ça, ce serait quelque chose qui pourrait calmer les fédérations, ça c'est sûr, et les médecins aussi. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, lorsqu'on le décortique comme il faut, le projet de loi, la loi maintenant, la loi 2, lorsqu'on la décortique comme il faut, c'est pas juste un 10 % ou un 15 % de moins si certains objectifs collectifs ne sont pas atteints. Ça dépend de votre spécialité, de ce que vous faites, mais on l'a décortiqué, puis même Michel Girard, l'économiste, a fait un papier dans je sais pas si c'est dans le journal,
oui,
ou si c'est dans la page, je pense que c'est dans le journal.
Oui.
Ça va plus loin que ça, là. Certaines spécialités vont, c'est du 30, du 40, même certaines pourraient monter à 50 % de pénalités, nonobstant aux facteurs de performance. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Et ça, le danger que ça amène, c'est qu'il y a des cliniques qui peuvent fermer. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des propriétaires de cliniques. Les propriétaires de cliniques, là, par exemple, de GMF ou de certains centres médicaux spécialisés, qui sont des cliniques qui sont publiques, mais dont l'investissement a été fait par certains médecins, des fois en collaboration avec des consortiums. Des fois, il y en a qui ont 2-3 millions de dettes à la banque pour l'immeuble.
Oui.
Mais là, des changements dans la loi comme ça, ça change complètement les règles du jeu. Ça fait en sorte que si, par exemple, si ça prend 10-12 médecins pour payer les locaux, s'il y en a 3-4 qui partent, ben c'est les propriétaires qu'il faut qu'ils paient ces locaux-là.
Ah, le plan d'affaires change complètement, là.
Exactement. Donc, quand on change les règles du jeu de façon aussi drastique que ça, on peut déséquilibrer un système complètement. Et c'est ça. Et même, on a l'impression, des fois, le ministre Dubé... Quand
ça, c'est le 30 % là, hein, vous parlez, là, notamment, là.
Oui, exactement, parce que lorsqu'on regarde, on approfondit au sein de la loi, ça va au-delà de juste le 10 %. Il était 15, puis il est descendu à 10, là, de mémoire, de facteurs de performance, d'être coupé par rapport à...
Ouais, ça, c'est la performance. Mais sur le 30 %, là, c'est quand vous êtes dans un GMF, vous êtes un médecin, on vous donnait 30 % pour payer vos frais d'administration, hein, c'était ça, notamment...
Ben, c'est-à-dire, ça va. Oui, il y a ça, mais lorsque vous regardez certaines spécialités, lorsqu'on regarde, par exemple, si on leur enlève le tarif à la première consultation, et si on calcule...
Ah, c'est ils perdaient là aussi, là.
Il y a des pertes, ça va jusqu'à 30 à 40 % de diminution de salaire global, nonobstant aux facteurs de performance. Il y a plusieurs médecins qui ont fait le calcul.
Mais pourquoi ils ont fait ça de même? Ils n'ont pas fait le calcul avant? C'est quoi? C'est du monétaire? Carrément, ils voulaient attaquer le monétaire, là?
Ben, c'est deux choses. Moi, je pense qu'il y a quand même des gens compétents qui les aident, là, autour. C'est une diminution de salaire colossale qu'ils voulaient faire d'emblée en raison qu'on considère que l'État n'a plus les moyens de payer. Soit c'est une... ils ont vraiment mal calculé leurs choses, puis ils se sont rendus compte que finalement, ben, il y avait des... ils sont dit, ouais, il y a des coupures qui sont plus importantes que ce qu'on avait anticipé. Moi, je pense que c'est plus la première option parce que j'ose croire qu'il y a des gens qui sont compétents quand même, là, qui
ces projets-là. Parce que Lucien Bouchard qui dit qu'il négociait aux tables, lui, il dit, on avançait, ça allait bien. Puis à un moment donné, le négociateur qui représentait le gouvernement de l'autre bord est allé voir jusqu'où il pouvait aller. Il est revenu, puis ils ont tout scrappé. Ils ont tout scrappé ce qu'il y avait comme avancé. Donc, il y avait quelqu'un quelque part qui avait intérêt à ce qu'il n'y avait pas de deal, là.
Exact. Donc, moi, je pense que oui. La façon que je vois que ça risque de se régler, la tangente où ça risque d'aller, c'est-à-dire il n'y aura probablement pas d'amendement par rapport au changement du mode de rémunération, ce qui ne semblait pas être le gros problème au sein de la négociation avec les fédérations, mais c'est certain qu'il va y avoir un réajustement par rapport aux primes et par rapport... aux coupures de salaire importantes. Ça, je suis persuadé qu'il va y avoir un réarrangement de ce qu'ils demandent par rapport à les pastilles de couleur, exemple. Qu'est-ce que ça vaut une pastille de couleur?
Il y a ça aussi, là.
C'est 26 $ de l'heure plus une question de capitation lorsque vous calculez l'ensemble de ça. Ça fait quand même une coupure importante. Moi, je pense qu'il va y avoir des réajustements à ce niveau-là parce que le ministre Dubé lui-même l'a dit. Il dit il ne reculera pas par rapport au changement de mode de rémunération. Moi, ce qui me semble pas un problème personnellement, parce que c'est correct de changer le mode de rémunération, mais il va y avoir un réajustement au niveau du calcul des taux horaires et ces choses-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas une coupe là, drastique de salaire, parce que peu importe c'est quoi votre profession, ce que vous pensez du médecin ou non, je veux dire, il n'y a pas grand monde en société qui accepterait demain matin d'être coupé 30 à 40
%. Non,
surtout qu'au niveau des objectifs de performance, il y a beaucoup de médecins, beaucoup de professionnels qui disent ben on peut pas les atteindre parce que soit que l'équipement n'est pas disponible, soit qu'il y a des huettes, soit que les équipes sont pas en place. Fait qu'il y a vraiment une distance entre les objectifs et la réalité.
Oui, que tout à fait. C'est sûr que si à la négociation, par exemple, il avait dit, OK, on gèle votre salaire jusqu'en 2028, mais par contre...
J'ajoute 100 millions par année, comme il avait dit, là.
Oui, exactement.
Pour le staff, là, puis mettre de l'argent pour que ça roule dans les salles d'opération.
Exactement, mais on signe vraiment, on s'engage à vous remplir de personnel vos salles d'opération.
C'est ça, exact.
Ou vous remplir de personnel, c'est-à-dire une infirmière de plus, une clinicienne de plus par GMF pour ajustement de diabète ou aider en santé mentale ou aider en gynéco, des choses comme ça. C'est sûr que là, à partir de ce moment-là, le gouvernement, ça aurait été beaucoup plus brillant de faire ça de cette façon-là parce que là, il aurait pu gagner beaucoup plus facilement l'opinion publique. Parce que là, tu te dis, OK, je gèle vos salaires.
Mais au moins, il améliore la performance, la productivité dans les salles d'opération.
Ça aurait été beaucoup plus intelligent. Au lieu de prendre cette attitude autoritaire-là, ça aurait été plus intelligent. Puis à partir de ce moment-là, le ministre peut aller sur la place publique et dire, regardez, là, on n'a pas beaucoup d'argent, l'État, vous le savez, on était décotés une fois, il faut prendre nos responsabilités, on gèle le salaire jusqu'en 2028. Mais d'un autre côté, on s'engage à donner 100, 200, 300, 400 millions de plus dans le but de remplir, et on s'engage à remplir les salles d'opération. Et les cliniques de personnel de soutien pour que les médecins puissent augmenter en productivité. Ça aurait été plus brillant, sans
Ouais, mais ils l'ont pas fait. La suite, là, le Parti conservateur lui dit quoi là-dedans, Parti conservateur du Québec? Vous êtes porte-parole en santé. C'est pas compliqué, là, le privé, puis on fait sauter le projet de loi 2, là.
Oh, ben nous, la position, elle est très claire. Là, je l'ai dit à quelques reprises, si on le fait sauter complètement, ce projet-là. Pourquoi? Parce qu'il est tellement mal ficelé dans son ensemble. On pourrait tergiverser comme M. Saint-Pierre Plamondon, puis dire, on est d'accord avec ça, mais on n'est pas d'accord avec ça. Puis ça. Bref, traduction de Paul Saint-Pierre Plamondon, il aime bien ce projet de loi-là, mais il n'est pas capable de dire sur la place, il n'a pas le courage de dire sur la place publique qu'il voudrait l'adopter de cette façon-là. Moi, c'est la traduction de ce qu'il dit, c'est ça que ça veut me dire. Les libéraux ont dit qu'ils voulaient l'abolir. Moi, je suis d'accord avec ça. Nous, au Parti conservateur du Québec, on l'abolit parce que même si on est d'accord avec le changement de mode de rémunération, la façon dont il est écrit, c'est tellement broche à foin, il est tellement mal ficelé.
Ah non, c'est mal ficelé, c'est mal écrit.
À partir de ce moment-là, si vous construisez un building ou une maison et les fondations sont tout croches, vous ne commencerez pas à dire « on va essayer de réparer le toit ».
Non, on enlève ça.
On rase ça complètement et on amène nos vraies propositions, c'est-à-dire, oui, dans le réseau public, changer le mode de rémunération pour les médecins de famille, parfait, pas de problème avec ça, mettre un peu plus de capitation. Ça, moi, je me suis jamais prononcé contre ça. Par contre, vraiment, on ouvre les valves au privé, les gens... les médecins peuvent travailler des deux côtés, les infirmières peuvent travailler des deux côtés. Et les facteurs de performance, oui, il va y en avoir, mais à l'échelle individuelle. Et c'est fini l'histoire d'aller négocier avec le gros gouvernement central. L'argent subit le patient et dans les cliniques et dans les hôpitaux. Et les médecins vont négocier leur salaire, comme ça se fait dans plein d'endroits sur la planète, directement avec les hôpitaux et avec les cliniques. Ça, c'est une façon beaucoup plus intelligente de faire les choses parce qu'à partir de ce moment-là, vous décentralisez le réseau.
Oui.
Vous faites en sorte que ton salaire, autrement dit, il n'est pas déterminé par le gros gouvernement central, il est déterminé par les besoins du marché. Puis ça peut arriver que si tu décides, toi, de faire des nuits sur la côte nord, parce qu'il en manque, on va avoir un tour de négociation plus élevé. Ça, c'est un système qui fonctionne et on augmente les effectifs de façon importante. Ça, c'est il faut absolument le faire. Et nous, ce qu'on veut, on veut rendre ça tellement intéressant.
On met de l'air, là. Il y a de l'oxygène, là. On ouvre les fenêtres, là.
Nous, tu sais, moi, j'aimerais ça, au lieu d'être. Qu'un jour, au lieu d'être 1-800 Dartford, ce soit 1-800 du M.
Oui, exact. Oui, non, ben on vire.
Pour en attirer ailleurs.
On change complètement le paradigme de sens, là, de bord.
Et à partir de ce moment-là, quand tu as un système qui est plus libéralisé comme ça, c'est les autres qui s'intéressent à ton système. C'est l'Ontario
exact.
Qui cogne à la porte.
Oui, exactement.
C'est donc bien intéressant la façon de pratiquer là-bas. Il y a plus de liberté. On n'a pas un gros gouvernement central qui est tout le temps là à nous surveiller avec un poli de bureau.
L'accès à la première ligne, parce que c'est ça le but, là. Hein? Il y a de la littérature qui existe, là. On limite l'accès à la première ligne. C'est ça qu'on fait, là.
On est dans un système de rationnement. Puis avec
exactement.
Nous, les gens vont avoir le droit de... Il va avoir toujours l'assurance de base de la RAMQ, mais les gens vont avoir le droit de se contracter un assureur s'ils ne sont pas satisfaits de leur assureur de base. Ça, c'est respecter la dignité des gens, c'est-à-dire on peut pas vous infliger un seul assureur. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'immoral là-dedans. Faut donner le choix aux gens.
Ça sera à suivre. Il y a des médecins qui écrivent, là, qui disent ouais, effectivement, le système est complexe, j'en conviens. c'est peut-être la conclusion. Karim El Ayoubi, médecin, merci beaucoup de vos lumières. À la prochaine.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
À bientôt.
Voilà. Il y a des médecins qui jasent.
Ah oui, mais le gros rassemblement hier aussi. Là.
Ben oui, c'est ça. Là.
Ils sont très mécontents.
Ouais, là, la pression va aller sur Legault. Legault essaie de diversifier, comment changer l'angle du tir.
Ah oui.
Ouais, 11h, il y a un point de presse entre François Legault, puis ça va être de l'économie.
Ouais, c'est ça. Investir, l'économie du Québec. Hein?
Ouais.
Développer et dynamiser nos entreprises. Mais au niveau de la loi 2, ça passe vraiment pas. Même, j'entendais Gaétan Barrette, il dit, j'ai jamais vu ça, une mobilisation comme ça hier.
Barrette, il est venu la semaine dernière, il a dit. Lui, il se craperait ça. Là. Il doit reculer, le gouvernement doit reculer.
Vous en pensez quoi?
Ben c'est ça, la question après la pause. Selon vous, est-ce que la CAQ doit reculer? Est-ce que Christian Dubé doit démissionner? Vendredi, c'est Vincent Marissal de QS qui a demandé la démission de Christian Dubé.
Quand même.
Et on s'en va où? Parce que, regarde, on ferait un ménage, là.
Vous en pensez quoi?
Exact.
88-670-9098.
On revient après la pause.
Couture dans le mid.
Téléphone, texto. 88-670-9098.
Visa. Radio-X. Bloopers. Bloopers. Profite de la pause des fêtes pour nettoyer ton équipement de hockey. Profite de la pause. Profite de la pause des fêtes pour nettoyer ton équipement de hockey qui sent la c**se de marde.
Pour inspection et service de gicleur, alarme incendie, Pour inspection et service de gicleur, alarme incendie,
Tabarn. What the f***? C'est quoi ça? Bloopers.
Radio X. Technopompe, votre référence en chauffage, climatisation et thermopompe à Québec, vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci à nos clients et partenaires pour leur confiance depuis 1987. Technopompe, dépositaire exclusif de la marque Train. Techno-pompe avec un S.com.
Hey, salut! C'est encore moi, ton sommeil. Bon, là, c'est le temps des fêtes. L'équipe festive de Dormez-vous m'a demandé de vous rappeler que c'est aussi le temps de dormir. Hein? Oui, il y a des portions de dinde à digérer, il y a des pyjamas drôles à essayer, il y a des siestes à faire dans la pile de manteaux sur le lit. Le cadeau à donner, c'est moi, le sommeil. Attends de me voir emballé. Hein?
Et vous aussi serez emballé, car le solde des fêtes se prolonge. Vous pouvez encore profiter de 25% de rabais sur presque tout. En ce moment, seulement chez Dormez-vous. Les conditions s'appliquent.
Radio X recrute pour sa force de vente locale. T'es un développeur dans l'âme, un vrai fonceur. Que tu sois junior, intermédiaire ou même senior, on veut te rencontrer. Viens évoluer dans un milieu ultra stimulant pour la station toujours numéro un dans la grande région de Québec. Peu importe ton secteur d'emploi actuel, assurance, automobile, meubles, services, on veut te rencontrer. Fais-nous parvenir ton CV à cv@commercialradiox.com. cv@commercialradiox.com.
Choix. 98. 1. Choix. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Choix.
Radio X.
Faites-vous votre propre opinion.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Notre invité, elle est là.
Oui.
Criminologue Maria Mourani. Comment allez-vous?
Ça va bien, vous?
Oui. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, Maria. J'ai dit, bon, on va appeler Maria, on va jaser un peu de... Là, il y a des compressions, là. Et il y avait un programme où les gens qui... notamment les batteurs de femmes, hein, et qui avaient des bracelets électroniques, là. Là, on dit que c'est un projet-là. En tout cas, c'est un projet qui était en évolution au Québec. On dit que ça pourrait avoir de l'eau dans le gaz. Comment tu vois ça de ton côté?
En fait, il faut savoir que les fameux bracelets qui sont donnés, par exemple, dans le cadre de violences conjugales, c'est vraiment dans un tout, hein, c'est-à-dire il y a une surveillance qui est faite, etc. Donc, en fait, le problème qui se passe là actuellement, c'est que le service correctionnel québécois a reçu des nouvelles directives en termes de surveillance des libérés sous condition ou des gars qui sont en probation. Donc, ils ont reçu des nouvelles règles, si tu veux, mais temporaires. Ce qu'on comprend, c'est que c'est temporaire, qui les obligerait d'une certaine manière à espacer les rencontres de surveillance. Donc, faut savoir que il y a deux systèmes au Canada. Il y a le système fédéral, il y a le système provincial. Toutes les sentences de 2 ans moins un jour se retrouvent dans le système de gestion provinciale et les plus grosses sentences se retrouvent au fédéral. Actuellement, okay, et puis même depuis que le système québécois existe, il n'est pas plus optimal que celui du fédéral. Au fédéral, là, quand un gars sort d'un pénitencier, il rencontre l'agent de libération conditionnelle de facto, quel que soit son niveau de risque, que ce soit un voleur, un tueur, un gars de gang, un gars du crime organisé, ça n'a aucune importance. Il rencontre l'agent de libération une fois par semaine. Donc, ça veut dire que pendant 6 mois, l'agent de libération en communauté, il va évaluer ce gars-là quotidiennement, presque hebdomadairement, pour voir si le niveau de risque est toujours le même, s'il est faible, s'il est moyen, s'il a augmenté, etc.
Le suivi, donc, le fameux suivi.
Ouais. Donc, il y a un suivi vraiment qui est très rigoureux. Bon, ça dépend des agents et tout, là. Chacun, ça, il y a des compétents partout, puis il y a des incompétents aussi. Mais habituellement, la manière dont c'est réglementé, c'est qu'on va surveiller les gars une fois par semaine. Et je te dirais, avant qu'un gars se retrouve à une fois ou 2 semaines, c'est que son niveau de risque est devenu moyen. Et puis s'il se retrouve une fois par mois, une fois ou 2 mois, c'est que son niveau de risque est très faible, là, mais qu'on est pogné quand même à le surveiller parce que, bon, il a une sentence vie ou bien une sentence plus longue, etc. Au provincial, déjà le système, quant à moi, quand on le compare au fédéral, il est moyen. Il est moyen parce que déjà, de facto, les gars, quand ils sortent, ben, on les surveille une fois ou 2 semaines. Donc déjà...
Il y a
déjà comme un petit los. Puis, ce qui est particulier aussi, c'est que, bon, quand ils sont en probation, on les voit moins souvent. Donc, tu vois, déjà, c'est lousse. Parce que le système, la manière dont il pense, si tu veux, comment c'est pensé ces affaires-là, déjà, la prémisse, elle est fausse. C'est qu'eux, ils partent du principe que les gars qui se retrouvent au provincial sont moins dangereux que les gars qui se retrouvent au fédéral, ce qui est faux.
Bien, c'est parce que des fois, c'est des criminels en montée, ils ne sont pas en descente, là.
C'est ça. C'est qu'en fait, le système, la manière dont il est fait, le fait qu'il soit dichotomé comme ça, c'est-à-dire... 2 ans plus 1 jour, ça s'en va au fédéral. Ouais. Dans un pays normal, là, il n'y en a pas 2 systèmes. Il y en a un seul.
Exact.
Okay? Puis, quel que soit le système, on évalue le risque du gars. Que tu aies une petite sentence ou une plus grande sentence, on s'en fout. On évalue ton risque. Parce que parfois, tu peux avoir des individus qui ont commis des meurtres, mais dont le risque de récidive est très faible. Mais que tu peux avoir un gars qui a fait un vol,
Mais que son risque
de récidive est très fort. Donc, tu sais, puis tu peux faire un vol sans violence, puis tu peux avoir une gradation de la violence. Donc, l'évaluation du risque, okay, par exemple, quelqu'un qui fait un vol sans violence peut éventuellement faire un vol avec violence, on ne le sait pas. Donc, au fond, ce que je veux te dire, c'est que l'évaluation du risque n'est pas liée à la sentence. Elle est liée à plein d'autres éléments.
À l'individu, son entourage, son comportement et autres. Là. Ouais, c'est ça.
Son psychologique, on évalue aussi le crime en tant que tel, comment il évolue, est-ce qu'il a commencé quand il avait 12 ans, est-ce que c'est le contexte, est-ce que c'est un crime qui a été fait dans un contexte bien spécifique. Donc, il y a tellement d'éléments pour évaluer le risque qu'on l'évalue par rapport à la personne et au contexte et au crime. On l'évalue pas par rapport à la sentence. Or, ce que, comme tu peux le savoir, parfois, tu as des gars qui ont même commis des agressions sexuelles envers des mineurs et qui ont des petites sentences, OK? Inceste, attouchement, tout ça, ils sont provinciales, là, OK? Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dangereux. Ils sont très dangereux envers des enfants, OK? Ils récidivent parfois et on ne le sait même pas parce qu'ils sont sur Internet et ils ont des avatars anonymes, là. On ne sait pas qui fait quoi. Ça, on le sait, ça. Puis ça, c'est sans compter tous ceux qu'on dit qu'ils ont des carrières criminelles. Ceux qui ont des carrières criminelles, tu ne peux même pas l'évaluer qu'après, tu sais, ils vont commencer, ils ont 12 ans, 13 ans, 14 ans. Tu vois une gradation au niveau des délits, même quand ils sont mineurs. Puis après ça, le dossier, il n'est pas accessible. Puis après ça, ils se retrouvent au provincial. Comme si, une fleur qui arrive dans le décor. Non! Parfois, tu regardes, c'est quand le gars, il va te le dire, il va te raconter ce qui s'est passé, même si tu n'as pas accès au dossier juvénile. Il va dire, bon, ben voilà, j'ai commencé, blablabla. Bref, tu vois qu'il y a comme une gradation et que ce gars-là, il se retrouve au provincial. Peut-être qu'on l'a pogné pour un délit qui permet d'être au provincial. Peut-être qu'il a fait un bargain avec le procureur pour avoir, justement, pour accélérer le processus judiciaire. Alors, je te donne 15 mois et puis tu plaides coupable. Ça, on envoie des trollés, OK? Ils se retrouvent tous au provincial. Donc, au fond, ces gars-là, ils sont dangereux, mais ils sont au provincial, OK? Puis, tu vas avoir aussi ceux qui sont ils sont jeunes, OK? Ils sont au provincial. Puis après ça, là, tu peux t'attendre, quand tu regardes leur carrière, là, au bout du compte, tu te rends compte qu'il a fait le juvénile, il a fait le provincial, puis après ça, il s'est retrouvé au fédéral.
Oui. Oh, il a monté en grade, là. Oh, oui, exactement.
Voir, si on veut. Alors, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que au provincial, actuellement, notre système, il n'est pas optimal. Et en plus de ça, les agents reçoivent une directive que temporairement, ils vont devoir lâcher l'ousse encore plus
ben,
que
c'est ce
déjà.
Qu'on comprend. Là, on dit, finalement, ce qu'on faisait, on faisait un suivi aux deux semaines, un mois et demi. Là, ça fait du lousse pour faire des mauvais coups aussi, là.
Ben, en fait, c'est que maintenant, ils vont devoir les voir, si ma mémoire est bonne, là, si j'ai bien compris la directive, là. C'est temporaire, okay? Ils disent que c'est temporaire. Que comme il y a un manque d'effectifs et qu'il y a des surcharges de travail, ben, telle catégorie, rencontrez-le une fois par mois, telle catégorie aux deux mois, ben, c'est sûr que, en tant que criminologue, là, moi, si j'étais dans à leur place, là, je serais très mal à l'aise parce que, d'abord, je ne respecterais pas les critères de l'ordre. Face à mon ordre professionnel, c'est un petit peu touché. Mais en plus de ça, face à la population, j'ai une reddition. Je suis imputable si quelqu'un, là, techniquement, là, l'agent, il est imputable si un délinquant ou un libéré sous condition passe à l'acte, là. Tu comprends? Puis moralement, nous, on est des humains. Savoir, moi j'ai travaillé longtemps au fédéral. Quand je disais qu'un gars pouvait sortir, là, ben, je l'analysais en maudit parce que j'avais pas le goût, là, qu'on me dise, bon, ben, le gars que t'as sorti, ben, il a violé encore un enfant, il a violé encore une femme ou il a tué quelqu'un.
Exact.
Ça, c'est le pire cauchemar d'un agent de libération ou d'un agent de probation.
Et là, il y a des agents de probation qui disent, écoute, on a peur de tourner coin rond, là, parce qu'avec les nouvelles compressions, les nouvelles mesures dont on nous demande, ben, on va peut-être se réveiller un jour avec un drame, puis on va se dire, tabarouette, on l'a échappé.
Ouais, ben, c'est on peut pas prévoir, mais la probabilité qu'avec un relâchement de la surveillance, parce que c'est ça, un relâchement de la surveillance, pas en termes de travail qui est fait par les agents. Là, les agents, quand ils vont rencontrer les gars, ils vont faire leur job comme il se doit. Mais c'est parce que moins tu le surveilles, moins tu as la possibilité d'évaluer le risque quotidiennement, là, tu sais, de manière assez hebdomadaire ou, bon, au provincial, aux deux semaines, là. Mais ce besoin de le rencontrer, il est important pour évaluer le risque. Ça ne peut pas se faire par une intelligence artificielle et ça ne peut pas se faire par des technologies, tu comprends? Même si tu lui mets un bracelet, mais que tu ne vérifies pas avec la victime, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu l'as vu au centre d'achat malgré qu'il avait son bracelet?
Ben oui.
Parce qu'il est. Est-ce que, par exemple, il a communiqué avec un ami qui a communiqué avec toi pour passer des messages, ou peut-être même il a communiqué avec toi sur les réseaux sociaux. Ça, tu peux pas le savoir avec un bracelet électronique. Tu comprends? Tu dois parler à la victime, tu dois parler avec le gars, tu dois parler avec la famille, avec les gens autour, avec les amis. La surveillance là, d'un agent de libération ou bien d'un agent de probation, c'est pas juste le gars qu'on rencontre. On va parler à l'entourage pour être sûr qu'ils nous racontent pas des conneries, là.
Ouais,
tu vois?
Dans le cas de violence conjugale, on a vu un gars récemment avec un bracelet qui lui faisait par exprès pour s'approcher de sa victime pour la faire
intimider,
la faire paranoïer et la faire virer complètement.
Je sais.
Le gars, il peut passer dans la rue 10 fois pour dire hey, tu check bien ça, je vais l'intimider jusqu'au bout, là.
Oui, 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 c'est des techniques qu'ils vont employer parce qu'ils savent très bien que les victimes, déjà, il faut savoir que la victime, elle est traumatisée. Tu sais, elle a un stress post-traumatique. Puis, ceux qui se retrouvent à avoir la chance de faire un suivi, soit psychothérapeutique, soit de counseling thérapeutique, ben moi, je peux vous dire que lorsque le gars réapparaît dans le décor, que ce soit il se met à distance ou il fait exprès de passer dans la même place ou il tourne avec son char ou bien il la rejoint sur les réseaux sociaux,
exact.
Ben ça remet la victime à zéro. C'est tout le travail qu'on a fait là, pour l'amener à cheminer.
Ouais.
Oh là là! Elle revient comme si elle vivait encore avec. Elle revient à des symptômes traumatiques, tu sais, le cauchemar. Donc, la somatisation réapparaît, comme par exemple les cauchemars, les idées toxiques, la peur de mourir, etc. Là. C'est comme si la personne, tout le travail qu'elle a fait avec nous autres, là, tu sais, en thérapie ou en counseling thérapeutique, là, tout le boulot qui a été fait, boum, on est revenu à la case départ.
Mais c'est capoté pareil, parce qu'avant, ces gars-là, t'en dedans. Là, on a dit, on va couper le budget, on va les laisser dehors, puis on va leur donner un bracelet, puis on va faire un suivi aux 2 semaines. Là, on est rendu un suivi au mois, puis un mois et demi, puis 2 mois, puis le bracelet, ben, c'est pour eux, là, mais regarde. Fait que finalement, on coupe, puis à un moment donné, on se ramasse avec des drames, on se dit, ben, voyons donc, on l'a échappé.
Ouais, et puis en même temps, je te dirais, dans la série des bracelets, là, moi, je suis tout à fait d'accord qu'on leur met les bracelets, hein. Parce qu'en même temps, psychologiquement, ça rassure les victimes. Tu sais, c'est un effet placebo peut-être, là, mais quand même dans le cerveau, ils jouent, tu sais. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les bracelets aussi ils vont être mis pour ceux qu'ils ont... Bon, au lieu d'être incarcérés, tu as raison, il y a ça. Il y a ceux qui vont être incarcérés, mais qui vont à leur sortie avoir des bracelets.
Ouais.
Puis tu as quand même ceux que... ils ont des 810 qui sont obligés de garder la paix et tout. Donc, il y a comme quand même dans le bassin de ceux qui ont les bracelets, là, t'as de tout.
Ah oui, t'as de tout pour tout, là. Ouais, c'est ça.
C'est ça, t'as de tout. T'as des gars qui sont extrêmement dangereux parce qu'ils sont encore soi-disant amoureux, là, tu sais, l'amour fusionnel. Soit tu m'aimes, tu restes avec moi, soit je te tue puis je te détruis, là. Puis t'as toutes sortes d'autres gars, là. T'as ceux qui, bon, sont encore toujours en colère. Et puis, tu as une variété là-dedans, là. Mais c'est sûr que quand on te met le bracelet, là, c'est que t'es peut-être pas très...
Non, t'es pas relax. Mais ça, souviens-toi, Maria, quand on nous a vendu l'histoire du bracelet, c'était un projet pilote. On disait qu'elle allait avoir des suivis serrés, hein. Mais là, là si tu commences à étendre la plage de surveillance parce que tu coupes, fait que finalement, tu sais, à un moment donné, la main droite, c'est plus que la main droite, la main gauche fait, puis il n'y a pas de problème. Moi, ça m'inquiète beaucoup, en tout cas. Regarde, je voulais t'en parler. Je ne sais pas comment tout ça va finir. Des fois, ça finit bien.
J'espère que c'est temporaire, comme ils le disent, là. Tu sais, si c'est vraiment une mesure temporaire pour quelques mois, pour alléger le système.
Ouais, ben moi, j'en regarde
encore, là. Tu sais, parce que dans le temporaire, tout peut arriver.
Oui, mais
comprends?
Moi, je regarde, moi, à Québec, le déficit là, temporaire, là, t'as quoi? 12,4 milliards. T'as 13,6, t'as 12,4.
Ouais. Puis ça, c'est ça. Tu sais, parfois, là, moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand le système dit c'est temporaire, il y a comme une espèce de chronicisation qui s'installe, puis finalement,
c'est
plus temporaire que ça.
C'est ça.
Ça devient plutôt une pratique. Ça, c'est par contre très dangereux.
Ouais. À suivre.
Très dangereux.
Maria Mourani, toujours un plaisir, criminologue. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Bye-bye.
À bientôt. Au revoir.
Parce que moi, c'est ça que je crains, Nick. Tu sais, les asiles, hein, à un moment donné, on a dit, bon, on va sortir les fous, bon, on va les gazer avec des pilules. Mais là, ils prennent pas le pilule. Puis là, ils pètent des câbles dans la rue. Puis là, on dit, oh, on va intervenir, là. Arrête donc, là. Ernest, faut pas, là. On va y redonner sa dose. Bon. Là, des criminels avec des bracelets qui devaient être surveillés aux deux semaines. Là, finalement, au mois et demi, aux deux mois. Puis là, t'as d'autres colos aussi qui sont comme un peu allégés.
Ouais, je pense qu'au niveau du suivi, là, on a vraiment une lacune, manque de budget.
C'est ce qu'ils disent.
Oui, tout à fait.
Voilà. On aura parlé. Mais qu'il arrive une histoire, ben, oh, c'est pas grave. Tu sais, c'est un cas isolé, c'est un fait divers. Là,
ah bon?
Ce sera au mois de janvier, là, tu sais, en deux, trois séances du Canadien de Montréal. Ça va passer dans le beurre. Voilà, hey, après la pause, Rodolphe Osni débarque.
Là, l'histoire. Pablo!
Hein, l'histoire du Parti libéral, des 500$, des entrepreneurs qui courent après de l'argent pour donner au parti. On va en jaser. On revient.
Couture.
Restez là. On revient dans un instant.
Dans le mid, Radio X. Le Space.
Ah, Mama Oulé.
Cast.
OK, fait que ça existe pour de vrai.
Le Space Cast.
OK.
Avec JF Blais.
Hey, les gars.
Et Louis Gauvin.
Oh, wow.
Lundi au jeudi, 19h.
Radio X.
Chez Sport Expert et Atmosphère, magasinez les soldes d'après Noël. Jusqu'au 6 janvier, obtenez jusqu'à 50% de rabais sur une vaste sélection d'articles pour toute la famille. Détail en magasin. Sport Expert d'ici.
Soldes d'après Noël, matelas Dauphin. Tous les matelas Dauphin sont réduits de 50% pour 6 jours seulement. Du 26 au 31 décembre, tous les matelas et sommiers fabriqués par Matelas Dauphin sont offerts à 50% de rabais. Dans tous les matelas Dauphin.
Radio X recrute pour sa force de vente locale. T'es un développeur dans l'âme, un vrai fonceur. Que tu sois junior, intermédiaire ou même senior, on veut te rencontrer. Viens évoluer dans un milieu ultra stimulant pour la station toujours numéro 1 dans la grande région de Québec. Peu importe ton secteur d'emploi actuel, assurance, automobile, meubles, services, on veut te rencontrer. Fais-nous parvenir ton CV à cv@commercialradiox.com. cv@commercialradiox.com.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Steven Melançon, anciennement de Leadership Québec.
Eh oui.
Comment allez-vous?
Ça va bien, vous?
Ben oui, ça va bien. Quand même une dure campagne. Hein? Ça a été une campagne assez, comment on dit ça, rocambolesque?
Rocambolesque. On va, Gilles Latulippe dirait que c'est du burlesque quasiment. Ouais. Oui, c'est une campagne qui a été quand même...
Vous avez été battu, là.
Oui, j'ai été battu.
Pas de retour, là.
Moi, présentement, je suis conseiller jusqu'au 9, je crois, là, jusqu'à la sermentation.
Dernière élection.
Oui.
Ça l'a de 2021. Vous aviez une avance de combien? Vous aviez fini avec combien de votes?
J'ai fini avec la plus grosse majorité, 46%. Déjà.
Ça donnait quoi en termes de vote à...
Au-dessus de 3 ou 4 000, on avait... 2 000 votes d'écart.
Et là,
différence,
ouais. Et là?
Je perds à peu près près de 200 votes.
Donc, on a divisé le vote, là, clairement. Là.
Le vote a été divisé, mais écoutez, j'écoutais votre collègue tout à l'heure, Joey, qui était en poste, qui avait une belle campagne.
Joey Aubé.
Et il s'excusait quasiment, mais là, c'est pas là le problème, c'est que les partis politiques se sont présentés, c'est correct, puis ils ont pris une place sur l'échiquier. Ça fait en sorte que le vote a été divisé et on a le résultat aujourd'hui que Bruno Marchand va être là. Et...
Mais il n'y a pas une histoire aussi là, d'élection où on a divisé des rues pour que les gens aient voté plus loin?
On a eu des petits problèmes avec certains bureaux de vote, ça c'est clair. Dans mon cas, moi, là, ils ont pris un bureau de vote qui était... Ils ont le droit de le faire.
C'est bizarre que... Ça...
Mais il y avait des citoyens qui allaient voter à pied dans mon district. Là, ils ne pouvaient plus le faire parce qu'ils allaient voter à Courville. Mais ceci étant dit... C'était une répartition qui était quand même problématique. Et les cartons aussi, les cartons de vote.
Ben oui,
une
saga. Il y a des gens qui ont perçu le carton.
Une saga incroyable. Là. J'ai parlé à un de mes copains qui travaille pour les postes. Il m'a bien dit, écoutez, la grève était terminée, on aurait pu les passer en 48 heures. Ils ont pris une firme externe, puis là, vous connaissez la suite.
Bien, la firme n'était pas prête, là. On a engagé n'importe qui, puis on tirait les cartons des rentrées d'appartement. Là.
Mais peu importe, c'est un vote démocratique. Les gens ont parlé. J'accepte ça. Hein. Vous savez, quand tu vas en politique, là, c'est pas un monde de Kalinours, pas un monde de licorne.
Ouais.
Tu acceptes le verdict. Moi, j'ai fait 8 belles années, hein, 2 mandats. J'aurais aimé poursuivre.
Dans et l'opposition là, aussi, là.
Oui, dans l'opposition, je vais vous dire, c'est rough, hein? C'est rough. On donne des avis de proposition. Moi, j'ai été attaqué sur mon bilan de 8 ans. Imaginez, les gens ont dit, mais Melançon, rien fait. J'ai fait un paquet de choses, là. Les citoyens le savent. J'ai même pas besoin de vous les donner en onde. Mais c'est tough, la politique. Puis je vais vous dire, vous voulez parler de la campagne, comment elle s'est passée?
Oui, allez-y.
Moi, ma crainte, c'est quoi? C'est simple. C'est qu'on s'est attardé à salir des candidats plutôt que de parler des enjeux.
Mais ça en dit long aussi sur l'état de notre démocratie.
C'est incroyable, M. Couture. Ça, là, ça m'a affecté grandement. Moi, j'ai 65 ans, j'ai pas rien à gagner, là. Mais imaginez les prochains candidats de la prochaine campagne électorale, vous aurez pas un chat. On fouille dans tes contraventions, on fouille, t'es ingénieur, t'as dit, ben, je suis pas ingénieur de formation. C'est du grand n'importe quoi. On n'a pas parlé des enjeux. Et ça, ça m'a profondément marqué. J'ai été désabusé de cette campagne-là.
Certains médias subventionnés aussi, là, puis qui, justement, pourquoi ils font ce travail-là? Pour qui travaillent-ils alors qu'ils devraient travailler pour les citoyens?
Ben oui, ça
les citoyens demandent d'avoir leur juste sur les programmes de parti.
Ben oui.
Pas du salissage à gauche et à droite.
Non, sur les enjeux. Il est tellement facile de prendre Bruno Marchand à contre-pied sur ses enjeux. Un exemple, l'incinérateur de Québec, on déplaçait 1 milliard.
Ben oui.
C'est quoi le cadre financier, M. Marchand? Expliquez-moi ça. Le gouvernement va-tu vous donner de l'argent? Le complexe sportif à Beauport, 36 millions, 5 millions financés par la ville. Vous allez financer ça comment? C'est tout le temps comme ça. Le gel de taxes aux commerçants, l'avez-vous fait dans les 4 dernières années, M. Marchand? Non. Quand est-ce que vous allez le faire? On aurait pu le prendre en dépôt, mais la meilleure.
Ben, 80 000 emplois. Pour
oui, 80 000 emplois. On peut en déployer jusqu'à demain matin. Mais
il n'y a personne qui a challengé ça.
Puis, vous savez pourquoi
le maire... Je pense que le soleil l'a fait.
Oui, un petit peu. Ouais. Savez-vous pourquoi il ne viendra pas s'asseoir ici? Puis je l'ai répété à plusieurs reprises. C'est simple. Vous prenez ce qu'il dit, puis vous le confrontez sur ses faussetés, puis il se contredit.
Puis là, il n'aime pas ça.
Mais non, il ne peut pas aimer ça. Non. Donc, j'ai trouvé que c'était une campagne. Puis moi, là, on a entendu beaucoup de la science et que le tramway, hein? Fait que là, j'invite les gens. Écoutez, moi, j'étais un prof qui est un ancien professeur. Je vais vous faire une petite déclaration aujourd'hui, rapide. Je voudrais qu'un prof d'université, en journalisme, fasse une analyse de la dernière campagne.
Université, oui. Journalisme, là, il en reste plus bien.
Oui, mais en tout cas, en communication, je veux qu'il fasse l'analyse de la campagne électorale. J'aimerais ça qu'il fasse une belle
analyse. De façon objective ou selon des...
Objective, là. Okay. Il n'y a pas juste Laval ici. Il y a d'autres universités.
Oui, c'est vrai.
Donc, qu'il me fasse vraiment une étude objective puis après ça, qu'il me donne une conclusion pour dire comment ça a été traité au niveau médiatique, cette campagne-là. J'aimerais ça avoir ça, là. Vous ne pouvez pas savoir comment.
C'est-à-dire, on prend les titres, les grands titres des grands médias.
Les titres, les attaques personnelles par rapport aux candidats. On n'a pas fait un débat sur les enjeux, pas de débat de fond. On n'a jamais attaqué le bilan de Bruno Marchand qui est catastrophique. Jamais vu ça.
Dans l'émission de notre collègue JC, à un moment donné, ils ont pris la plupart des articles concernant tous les partis et les candidats à la mairie. La plupart des... Ben en fait, tous les articles qui concernaient Leadership Québec ou Respect citoyen, c'était toujours négatif. Ouais. Tout ce qui concernait Bruno Marchand, c'était toujours beau, c'était toujours positif, dans le bonheur. Il y a vraiment une
dichotomie là. Donc, on avait fait son nid avant, là. Les médias ont fait leur choix de qui allait être le prochain maire de Québec.
Si vous me dites que Bruno Marchand a été challengé dans cette campagne-là, là, vous me le direz, j'ai pas vu ça.
Mais c'est quand même incroyable.
C'est un bilan catastrophique.
Mais c'est-tu parce que nos médias sont subventionnés puis qu'ils sont à la merci, justement, du pouvoir politique? Qu'est-ce qui peut expliquer ça?
Ils auront... Les médias, souvent, sont du côté du pouvoir. C'est clair.
Non, mais c'est parce que le peuple n'est pas du côté du pouvoir.
Pas du tout.
Le peuple est dans la rue, puis lui, il veut avoir les réponses.
On pouvait le challenger à tous les jours, à peu près sur toutes les annonces. Puis on ne l'a pas fait. Hey, ce matin, j'écoutais Chouet. Là, maintenant, là, il dit, je vais consulter plus. Je vais regarder les gens.
Mais parce que...
Puis l'échéancier, au mois de janvier. Es-tu bonne, celle-là? Il tombe dans le budget dans quelques semaines, puis il va aller consulter à grande échelle les citoyens de la Ville de Québec. J'ai hâte de voir ça, moi, de la conclusion de ça. Là. C'est incroyable ce qu'il peut dire, puis il n'est jamais challengé. Ça, je trouve ça incroyable.
La résultante, parce que lui est rentré très fort. Oui. Les gens de Québec, je ne sais pas si les gens de Québec ont réalisé, mais là, on rentre dans des taxes. Ça va être du 3 à 4 % de taxes. Donc, environ, votre compte de taxes va monter dans les 4 prochaines années entre 150 et 250 $ par année. Donc, à terme, c'est entre 600 peut-être et 1 000 $ de plus que vous allez payer d'ici 4 ans sur votre compte de taxes. Les immatriculations, vous allez payer, là, c'est 60. Le 1er janvier, c'est un 90 ou autre. Les taxes sur l'essence, il parle d'un 3 cents que lui, il voulait avoir, il va l'avoir. Donc là, vous allez avoir des hausses de taxes, à part le tramway qui s'en vient. Là.
Le tramway, il y a coût d'entretien, coût d'utilisation, coût de remplacement directement à la charge des citoyens. Voulez-vous que je vous parle d'immatriculation? Oui.
On va parler d'immatriculation, puis après ça, tramway, parce que...
Je vais vous en parler dans 30 secondes. Le maire a dit, puis ça n'a pas été repris là, par les journalistes. Écoutez bien ce que dit le maire, le textuel. Là. Citez-moi, enregistrez-moi. Quand on a dit qu'on enlevait la taxe sur l'immatriculation, 60 $, c'est vous ce qu'il a dit? Puis je dis, ils vont faire comment pour développer de nouveaux services? Donc, la résultante, je développe des nouveaux services.
J'augmente. Fais quoi? J'augmente la taxe.
C'est, au lieu de consolider,
mais non, mais c'est la vie,
au
ça.
Lieu le, de restructurer, ils taxent. Personne le challenge là-dessus. Le tramway, ça va être épouvantable. Le tramway, il se vante avec son cash de 700 millions.
Oui, mais
millions.
L'argent n'est pas là.
En plus,
on parle d'une première phase préliminaire de 7,6 milliards. Il y a juste 1,2 milliard du fédéral. Puis, il n'est pas encore promis. Là.
Il n'est pas arrimé. Là.
Non, il n'est pas arrimé.
Puis, le provincial, là, puis d'argent, on cherche, on gratte dans les fonds de tiroir là, pour couper les médecins, puis couper la SQ, puis couper dans tous les ministères. Puis, on va avoir quoi? 4 milliards, 5 milliards pour une première phase de tramway à Québec?
Oui. Puis, vous n'oubliez pas, si vous êtes fort en calcul, M. Couture, hein? On a une projection de tramway de 7,6 milliards.
Préliminaire.
Préliminaire. Vous l'avez bien compris. Mais s'il monte à 10 milliards, c'est plus 700 millions qui marchent, là. On parle d'un milliard.
Oui, mais Bruno Marchand nous dit, lui, qu'il s'est bloqué.
Il va arrêter ça, là.
Oui, c'est 750 millions.
Mais oui, il a tellement dit des belles phrases à la campagne de 2021. La plus belle phrase qu'il a dit, Bruno Marchand veut un tramway, mais pas à n'importe quel prix. Puis c'est quoi son prix? Y a-t-il un journaliste qui peut lui demander, c'est quoi ton prix pour le tramway?
Non, ils n'ont jamais voulu aller là.
Non, mais il dit, vas-y, c'est-tu 7 milliards, c'est-tu 8, c'est-tu 9, c'est-tu 10, c'est-tu 12?
Non, mais ça, ils savent.
Personne lui a demandé.
Mais Claude Villeneuve ne voulait jamais le dire non plus, le prix du tramway. Là.
Oui,
je
dire, mais payer. Payer.
Mais ça va être les citoyens qui vont payer, d'une part. Mais c'est-tu parce que les gens ont besoin de lunettes roses? Comment expliquer? C'est quoi? C'est un monde de licorne? Comment on veut? Pourquoi les médias ne challengent pas plus les gens au pouvoir actuellement?
Moi, j'ai fait du porte-à-porte, M. Couture. J'en ai fait du porte-à-porte. Première élection, 5000. Deuxième élection, 2000 portes. Là, j'ai fait à peu près 1000 portes. OK? Quand j'allais cogner aux portes, je demandais aux gens, êtes-vous pour ou contre le tramway? Pour pas qu'on se parle pour rien. Les gens disent, je sais pas trop. Ils passent pas ici. Ça me dérangera pas. Je sais pas. Puis je dis, les coûts d'entretien, les coûts d'utilisation.
Vos taxes municipales.
Vos taxes, ça vous dit rien. Bien là, nous autres, on a les parcs gratuits. Le maire a dit qu'on avait les parcs gratuits. On peut aller dans les parcs gratuits. Mais ça n'a rien à voir. Je vous le dis, moi, les gens...
Les gens ne s'intéressent pas à ça.
Bien, les gens, ça vote avec un pourcentage qui est quand même un peu plus élevé, là. Mais on dirait que ça ne les intéresse pas, puis c'est la politique la plus près du citoyen. Mais moi, j'accepte le verdict, là. Ils ont voté Bruno Marchand, majoritaire.
Ouais. Ben on va avoir ce qu'on aura, là.
Puis hein? On a les politiciens, la phrase que je terminerai là-dessus, on a les politiciens que l'on mérite. Puis moi, je ne sais pas si vous avez l'extrait. Moi, ce matin, là, j'étais un petit peu pas maussade, mais je veux dire, je m'en viens ici, je m'en viens sur... Puis la Nelson Mandela, là...
Ah oui!
Mobutu,
là, si vous me faites jouer ça, c'est mon cadeau. C'est mon cadeau pour me faire... Puis imaginez 4 ans. Là. Ça, si vous êtes capable de me trouver cet extrait-là, vous allez faire ma journée. On va en avoir pour 4 ans avec ce maire-là.
Le message que vous passez à l'opposition aussi, parce que vous avez été dans l'opposition, vous avez joué dans le film avec Bruno Marchand.
Absolument.
Lui, il laisse rien, là.
Ah, lui, c'est...
C'est quoi que, respect citoyen, à quoi ils doivent s'attendre pour les 4 prochaines années?
Bien, premièrement, je dis qu'ils vont toujours se faire challenger. Ils vont avoir des propositions à faire. Le maire va les refuser. Il va changer quelques lignes. Il va me dire que ça vient de lui. Mais surtout, il va essayer de les discréditer. Quand il se fait remettre en question, là...
Ouais.
C'est jamais sa faute.
Ben, on l'a vu, là.
Il devait être dans une chorale quand il était jeune, le maire, là. Puis il devait être dans une chorale de 50, puis il en avait 49 qui chantaient faux. Ça doit être à peu près ça. Quand il a pas raison, quand on lui donne pas raison, c'est un maire qui.
Ah, il aime pas ça.
Par la part des choses, il aime pas ça. Il n'y a personne qui fait ce challenge. Moi, j'ai pas aimé ces années-là, je vous le dis, là. J'ai connu Régis Labombe, qui était...
Mais c'est pas facile, ça sera pas facile. Là. Sur 21 conseillers, il y en a 18 qui vont être avec Bruno Marchand. Il va faire ce qu'il veut.
J'ai vécu la même affaire au dernier conseil de ville. Et on est 3, on lève la main. Parfait, on demande le vote.
On rigole, on se fout de votre gueule.
Ça, puis oui, puis, mais moi, je dis à M. Lachance, j'ai pas de conseil à lui donner, mais une bonne préparation, puis de pas le lâcher. Surtout, là, si vous voulez connaître quelqu'un, écoutez pas ce qu'il dit.
Regardez ce qu'il fait, ouais.
C'est ça, hein, c'est ça.
On ne tromperait pas avec Bruno Marchand.
On sort comment de ces 8 années-là? Là, vous prenez votre retraite?
Oui, c'est terminé pour moi.
Une belle expérience, somme toute.
Belle expérience. Moi, je voudrais remercier... Est-ce que je peux le faire, M. Couture?
Allez-y.
Parce que je voudrais remercier les citoyens qui m'ont donné 2 beaux mandats. Ma gang de Beauport, ma gang de Montmorency, merci. Écoutez, ils m'ont fait confiance. J'ai fait le maximum que je pouvais pour eux. Savez-vous, c'est quoi mon blé, M. Couture? J'ai manqué aucun conseil de ville en 8 ans. Aucun conseil d'arrondissement. J'ai manqué aucun plaignier en 8 ans. J'ai manqué juste 2 conseils de quartier. J'étais présent partout.
C'est ce qu'on disait.
Je faisais honneur aux gens. Ils m'ont fait confiance. Je les aime. Merci à mon équipe du cabinet aussi. Je ne veux pas nommer les gens parce qu'on va en oublier. Les gens du cabinet. Je remercie sa maman pour sa confiance. Sam Hamad, n'oubliez pas une chose, quand il s'est présenté, là, il était presque ex-aequo avec Bruno Marchand.
Même gagné.
Campagne difficile. Ouais. Mais moi, j'ai...
Mais comment expliquer la déconfiture de Leadership Québec?
On a eu...
Vous étiez dans un sondage, vous étiez ex-aequo.
On a eu un début de campagne difficile, mais on a eu une bonne fin de campagne. Mais encore une fois, c'était une campagne de salissage. On n'a pas parlé des enjeux. Puis ce monsieur-là, là, moi, quand j'ai accédé avec M. Sam Hamad dans son équipe, j'ai posé deux questions. Un, il allait là pour les bonnes raisons. Une perte de salaire incroyable, une perte de qualité de vie incroyable, puis il était là pour les bonnes raisons. Puis deux, c'était un travailleur d'équipe qui nous faisait confiance, puis qui voulait vraiment... Il avait la ville à cœur, il y a toujours la ville à cœur. Moi, je l'ai vu les larmes aux yeux, ce gars-là. C'est pas des banteries, je vous dis, là. Quand il parlait des citoyens de la capitale nationale, il voulait vraiment remettre ça droit. Il voulait arrêter le tramway. Il avait de très bonnes intentions. Moi, je l'admire, je me dis, merci. Il s'est fait salir sa place publique comme jamais. Puis j'ai peur pour les prochains candidats. Imaginez-moi, là, je vais vous dire de quoi. Je m'excuse, j'ai embrassé une petite fille dans la cour de récréation à 11 ans. Je ne sais pas si ça va sortir, là. Je suis désolé. Mais on est rendu là. On est rendu qu'on n'aura plus de candidats. Les gens vont avoir peur de se présenter. On ne parle pas des enjeux. Et ça m'attriste. Où on s'en va avec ça, je ne sais pas. On est vraiment mal parti.
Mais ça va avec le reste.
Mais je garde un bon souvenir. Je dis merci à mes citoyens qui m'ont aidé et tout ça dans ce. Puis en terminant, merci à vous. Merci à Choix. Vous êtes une radio là qui écoute les gens. Vous êtes super.
On parle avec le peuple.
Oui.
On est du peuple.
Vous êtes branchés, ce qu'on appelle
la colère du peuple. On la sent nous aussi.
Oui. Ben oui.
Tu sais, il y a des gens qui me disent mais pourquoi mais non, mais c'est parce que nous on le sent. Les textos rentrent, Nick. On parle. Il y a du monde qui écoute là.
Oui, puis vous avez énormément d'auditeurs, vous faites un bon travail et vous êtes d'une précision chirurgicale quand vous attaquez les dossiers. J'adore ça. Je vous remercie beaucoup, tout le monde. Moi, c'est possiblement ma dernière entrevue, M. Couture.
Exact, exact.
Après ça, je vais me fondre
dans vos terres.
Je rentre dans mes terres, dans Montmorency, dans ma gang qu'on appelle, ma gang que j'ai toujours aimée et que j'aime toujours.
Beaucoup de gens qui vous félicitent, qui vous remercient pour votre travail.
Voilà. Stephen Balasson, merci d'avoir été là ce matin. Toujours un plaisir. Puis on va finir avec Nelson Mandela.
Ah, merci. Ça, c'est mon cadeau. Imaginez 4 ans, là.
Oui. Après la pause, Rodolphe Osny débat.
Il faut faire mieux. Il faut faire mieux parce qu'une ville, comme la nôtre, peut faire une différence pour chacun de nous. Chacun des citoyens. Et j'ai la responsabilité, et nous aurons la responsabilité de faire mieux. Nelson Mandela et Desmond Tutu nous ont fait connaître le concept de Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Je n'existe pas seul. Je ne suis pas le construit de mon seul effort. Nous sommes le résultat de quelque chose de plus grand. Plus grand que nous-mêmes. Si ma communauté souffre, je souffre aussi. Mon environnement me façonne et les gens qui l'habitent aussi. De là toute l'importance de construire une ville, notre ville, pour prendre soin de tous les citoyens.
Couture dans le mythe. Radio X.
Profitez des soldes de l'après-Noël chez Liquidasport. Jusqu'au 4 janvier, obtenez jusqu'à 50% de rabais sur articles sélectionnés et un minimum de 20% de rabais dans les départements. Ski, planche à neige, bottes d'hiver, tuques, mitaines et gants. Liquidasport, avenue Jules Verne, Québec.
Bière et Frites vous offre la moyenne poutine à 3,99 du 28 au 30 décembre. Bière et Frites vous offre aussi la bouteille de vin la moins chère au Québec, la Los Molinos à 7 $. Bière et Frites vous donne des ailes avec la caisse de Red Bull à 40,99. Et finalement, pour accompagner vos poutines à 3,99, pourquoi ne pas prendre une caisse de grosse bière à 39,99, de Bud Light ou 50? Bière et Frites, prix imbattable, goût imbattable. 550 rue Marais, 44 Président Kennedy.
Salut Québec, ici Samuel Cadotte, propriétaire de Montréal Bungee. Cette année à Noël, offre un cadeau complètement malade. Le plus haut saut à l'élastique au Canada, en plein cœur du Vieux-Port de Montréal. Sors de l'ordinaire et procure-toi ton certificat cadeau sur montrealbungee.com.
Capsule
Radio X.
Pas de place pour tout après votre déménagement? Astral Déménagement a la solution. Entreposage sécuritaire, propre et chauffé à court ou long terme. Astral Déménagement, déménager, entreposer, respirer. Astral.ms. Tu veux t'offrir le cadeau parfait? Un F-150? Donnacona Ford. Tu veux un taux d'intérêt à 0%? Donnacona Ford. T'as un échange et tu veux le meilleur prix? On t'attend chez Donnacona Ford. Votre national sera en action le 11 janvier prochain au Centre Bonheur de l'Ancienne Lorette. Votre équipe affronte les éperviers de Sorel-Tracy à 14h. Venez encourager votre national. Ce match est présenté par Bernard Filiatro, gestionnaire de portefeuille à la financière Banque Nationale. Venez profiter de nos soirées hockey à l'un de nos restaurants Trois Brasseurs des Galeries de la Capitale, de Grande Allée ou Place Sainte-Foy. Pour une expérience hockey ultime, on se rejoint entre amis aux Trois Brasseurs. Bons plats et bonnes bières brassées sur place vous attendent.
Montréal Live, The Best Of. En fait, Dan, c'est pas vraiment un Best Of,
c'est un Making Of. En fait, c'est pas compliqué, c'est les Director Cut. On arrive, puis on vous dit pourquoi est-ce qu'il y a un ombrage là, pourquoi est-ce qu'il fait soleil dans cette scène-là, puis pourquoi André Arthur est si drôle.
Au Canada, qu'est-ce qui inspire ça? Pourquoi vous avez fait ça? Et pourquoi pas Pat et Jean-Claude? On a fait une coupe de montage quand même.
Dans le temps des fêtes, ça va être dans le pâté au saumon, Doom!
J'ai rien d'autre à dire.
Morey Live, The Making Of, le 25 décembre et le 31 décembre. Dans le pâté au saumon, oui, papa. Oui, papa.
Radio X. Choix.
D'accord. Radio. Pas d'accord. X. On s'aime pareil.
Choix. Faites-vous.
Faites-vous.
Votre propre opinion.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Couture.
Attendez-vous que vous ayez tout sauté à bloc.
Dans le mid.
Avec Pierre Couture.
Ouais.
Et Nick Cloutier.
Ouais, ouais.
Radio.
Radio.
X.
Ouais, ben Pablo Rodriguez, ses jours sont comptés.
Oh, ses heures.
On dit que. Ça pourrait être annoncé au cours des prochaines heures.
Ouais. Pas mal confirmé, là.
Pas mal tout le monde autour de lui confirme qu'il va quitter. Et il y a une rencontre avec ses députés. Peut-être qu'il va attendre sa rencontre avec ses députés pour leur annoncer qu'il quitte. Et par la suite, il va tenir un point de presse pour expliquer...
Que le vent finalement est trop fort et qu'il n'est pas tant fighter que ça.
Voilà.
De toute façon, quand tous tes appuis coulent sous tes pieds, il ne peut rien en faire.
Ben, c'est ça. La semaine dernière, c'est quand même tout un revirement de situation.
Oh, oui, tout à fait. Vendredi, il se battait là, jusqu'à la mort.
C'est un fighter, puis tous les députés sont autour de lui, là.
Oui, mais là, les nouvelles allégations d'enveloppe de cash avec l'homme d'affaires, là, Cabral, qui s'appelle?
Monsieur Cabral.
Ça l'a mis... c'était le clou, le dernier clou, les amis.
Voilà. Notre invité chroniqueur, on l'adore, Sylvain Charlebois du Full Professor. Comment ça va, Sylvain?
Ça va bien, vous autres?
Ça va bien.
Ça va bien, ça va bien.
Bien que la politique à l'extérieur du Québec est plate.
Oui.
Ben, j'ai une théorie par rapport à Pablo Rodriguez, puisque évidemment, je suis au Québec, puis je suis la saga depuis le début. Tu sais, à Ottawa, les libéraux l'ont toujours eu facile. Avec les médias, là, je pense.
Oui.
Mais au Québec, les médias pardonnent pas, là.
Ouais, puis t'as des médias québécois.
Ça, c'est ma théorie, là.
Ouais, puis t'as des médias...
Pablo Rodriguez, t'es pas prêt à ça, là.
Alors, absolument. Puis l'autre chose, c'est que les médias québécois, souvent, Ottawa, c'est loin. Ils ont un journaliste, ils en ont deux. Là, il y a, tu sais, quand même québécois, il y a une équipe d'enquête, là. Mais c'est toute l'histoire de l'argent, puis le Parti libéral.
Mais Pablo était libéral à Ottawa. Hein, puis les libéraux ont toujours eu une plus grande laisse avec les médias, tandis que les conservateurs sont surveillés beaucoup plus près.
Oui.
Dès qu'il y a une gaffe du côté des conservateurs, ben ils couvrent la manchette pendant des mois. Dans le cas des libéraux, ça va peut-être faire les manchettes une journée,
oui,
peut-être deux.
C'est vrai.
Puis moi, je pense que Pablo Rodriguez n'a jamais été exposé à la voracité des médias à l'Assemblée nationale. Puis moi, je pense, bravo. T'sais, on dit souvent que les médias font pas leur travail, là. Mais dans ce cas-ci, moi, je pense que les médias ont fait leur travail là, à Québec et puis ailleurs aussi et dans la province.
Mais si Marois Risky ne parle pas, là, on n'a pas ça.
Non.
Tu comprends, la fronde est venue de l'intérieur, là?
Ben c'est souvent ça. Hein. Il y a un genre un signaleur d'alerte, là.
Ouais.
Un lanceur d'alerte, et puis qui part la patente. Ben regarde, avec Trudeau, ça a été Chrystia Freeland qui a démissionné en tant que ministre des Finances. Si vous vous souvenez, c'est il y a un an, là. Ce mois-ci, démissionnait.
Ben, il voulait
C'est ce qui a fait en sorte que Trudeau est parti, là, finalement.
Ben, c'est ça. C'est parce que Trudeau voulait qu'elle dépose. Elle était ministre des Finances. Il voulait qu'elle dépose un budget couleuvre. Puis elle a dit non. Moi, je le prends pas, là. Je le prends plus, là. Puis là, à partir de là,
C'est pour ça que moi, j'ai l'impression que Pablo Rodriguez n'a pas, tu sais, loué le local de sa femme. Puis il a fait un paquet d'erreurs de jugement, finalement, parce qu'il a toujours suivi la loi, mais, tu sais, en politique, l'optique est très, très important. Puis moi, j'ai l'impression que c'est une leçon qui est difficile à prendre pour Pablo Rodriguez, mais il l'a appris, il fallait qu'il aille à Québec pour l'apprendre.
Oui, exact. Non, c'est une, toute une débarque pour Pablo. Ouais. L'inflation alimentaire, là, t'as vu le gouverneur de la Banque du Canada hier dire ben ça va peut-être descendre là, en 2026. Lui, s'attend à ce que ça descende. Est-ce que toi, t'es optimiste comme lui?
Ben j'espère qu'il a raison. Ben, tu sais, j'espère qu'il a raison parce qu'on en a besoin, là. Tu sais,
mais oui, café,
nos modèles nous disent, tu sais, nous, on n'invente pas les chiffres, là. On dit pas. Tu sais, on a un modèle qui nous dit que ça va être encore une année difficile. C'est ce qu'on a publié. Les raisons qu'il donne, lui, c'est les tarifs et puis le coût de transport. Il a raison, mais tu sais, il va probablement avoir d'autres choses, là. Puis, vous savez, là, avec le coût. De l'énergie. Évidemment, le pétrole est à son plus bas en 5 ans, je crois, ce matin.
Oui, oui.
Tu sais, ça l'aide. Ça va aider, ça, c'est sûr, parce que le Canada est un pays qui est très vaste et puis on a besoin de coûts énergétiques qui sont plus bas, tu sais. Mais en même temps, Tiff Macklem s'est trompé souvent, là. Il s'est trompé souvent avec la taxe le carbone. Il a toujours dit que ça n'a aucun impact. Puis
ah, il était dans le champ complètement. Oui, il était dans le champ
complètement. Puis il a déjà mentionné en 2022. En 2022.
Oui,
là,
je me souviens. Oui, je me souviens très bien.
Il avait dit que l'inflation n'était pas pour être un problème. On va maintenir les taux d'intérêt à un très bon niveau. Puis il y a des milliers de familles qui ont misé sur ses paroles pour renégocier une hypothèque.
À taux variable.
À taux variable.
Ben oui.
Tu sais, puis on sait, il y a des centaines de milliers de ménages qui sont fait ramasser avec des taux d'intérêt vraiment très, très, très élevés. Le taux d'inflation avait atteint 11 %. Tu sais, fait que il s'est trompé par le passé, là, puis on sait jamais. Mais la façon qu'il l'a dit hier, tu sais, il a utilisé des mots comme « devrait », possiblement. La Banque du Canada fait toujours attention en ce qui a trait à ses pronostics d'inflation alimentaire et énergétique. Là, parce que c'est les deux composantes qui sont très volatiles. Dans notre cas, nous, on a développé une expertise au niveau de l'alimentaire. Là, c'est pas pour rien parce que c'est très difficile de prévoir. Mais j'espère que Tiff Macklem a raison et que nous, on a tort. Pourquoi? Parce que, tu sais... Moi, écoute, les prix alimentaires ont augmenté de 27 % depuis 2020. On risque de voir un 30 % en 2026. C'est pas facile pour beaucoup de monde. Le problème.
Combien
que je vois,
tu dis, 2026?
En 2026, oui. On risque de dépasser le 30 % depuis 2020. Ouais.
OK, je pensais que tu me collais un 30 % juste
en 2026.
Oh, non. Mais le problème, tu sais, c'est qu'il y a une chose que je pense pas que la Banque du Canada reconnaît, c'est que notre problème d'inflation alimentaire est systémique. Là. C'est pas, on parle pas d'un problème cyclique ou temporaire. Quand on regarde les États-Unis, tu sais, l'inflation alimentaire... augmente à peu près au même rythme que l'inflation générale. C'est ce que tu veux, tu sais. C'est sûr que quand l'inflation monte, ben l'inflation alimentaire augmente. Au Canada, c'est depuis la crise financière de 2008 qu'il y a eu un découplement entre l'inflation alimentaire et l'inflation. Tu sais, on le voit dans la courbe. Si vous regardez les données Statistiques Canada, là, nos problèmes ne datent pas d'hier. Là. On parle... Il y a vraiment... Moi, ma théorie là, par rapport à l'inflation alimentaire, c'est qu'on n'a pas un secteur de transformation qui est capable d'absorber les chocs financiers et économiques comme on le voit aux États-Unis. Autrement dit, des petites entreprises là, qui achètent des ingrédients pour faire leurs muffins, leurs tartes, là, ils n'ont souvent qu'une seule option, un seul fournisseur. Fait que si, ben, je sais pas moi, le prix du cacao explose, ben, ils doivent payer plus, puis ils doivent augmenter le prix. Aux États-Unis, il y a une raison pourquoi que Donald Trump a dit à Walmart, à Costco, puis à toutes les autres...
Eat the tariffs,
Eat the tariffs, parce qu'ils sont capables de changer, de pivoter, de changer de fournisseur.
La route,
parce qu'ils ont le pouvoir d'achat. Au Canada, on a soit les PepsiCo de ce monde, où on a des petites PME qui n'ont pas la capacité d'absorber les chocs. Puis c'est ça qui est le gros problème qu'on a. Puis t'ajoutes à ça la gestion de l'offre, t'ajoutes à ça les barrières interprovinciales, t'ajoutes à ça les problèmes au niveau de la main-d'œuvre, des restrictions entre les provinces. T'ajoutes à ça les règles d'étiquetage qui sont quand même assez lourdes. Donc, il y a beaucoup de choses, la logistique qui est déficiente aussi à travers le Canada avec les ports, les routes, les. Tu sais, il y a vraiment énormément de problèmes qui font en sorte que c'est très difficile de stabiliser l'inflation alimentaire.
Et manque de concurrence, hein, parce qu'il y a ça aussi, là. Il y a
l'espoir qu'on a pour 2026, c'est justement d'atténuer le pouvoir que les épiciers ont. Parce que, tu sais, c'est sûr que, bon, vos auditeurs vont penser que je défends souvent les épiciers, mais ils ont énormément de pouvoir, puis ils abusent de leur pouvoir en amont de la chaîne. Tu sais, on étouffe les fournisseurs. Tu sais, on abuse des fournisseurs. Leur blase, là... Si l'Arblase veut décider de mettre en faillite une compagnie, là, l'entreprise peut le faire. Là.
Ouais.
C'est demain matin. Là.
Puis l'autre affaire, c'est s'ils voient que quelqu'un, le fournisseur, fait une belle passe, ben ils vont dire, ben nous autres, notre marque maison, là, on va l'imiter.
C'est ça.
Hein? Puis on va le squeezer dans le coin.
Exactement. Donc c'est pour ça que c'est important de reconnaître ouais. qu'on a vraiment de graves problèmes. Puis là-dessus, je ne pense pas que Tiff Macklem, le gouverneur de la Banque du Canada,
lit
très bien ouais. l'état actuel de notre filière agroalimentaire. Moi, je ne pense pas.
Mais je pense que la Banque du Canada était sortie à un moment donné pour dire que ça va prendre plus de concurrence. Dans plein de secteurs, là. Il était comme...